Donc après ce moment de collation, vous savez que c'est toujours assez terrible parce que nous avons à peu près 30% de notre énergie qui passe dans la digestion. Vous le savez les uns et les autres. Donc faut être percutant. Il va falloir un peu les secouer. Non, mais ça c'est normal. Donc l'objectif de l'après-midi, évidemment, c'est de réfléchir en partant des constats qui ont été effectués assez brillamment dans la matinée aux possibilités de reconnaître les métiers d'herboriste. Et c'est vraiment sous cet axe-là que Joël Labbé souhaite cette réunion, c'est-à-dire qu'on ne va pas opposer systématiquement les uns et les autres, même si, je vous le disais, c'est toujours un petit peu un sport de combat, mais malgré tout, de trouver effectivement quels peuvent être les futurs périmètres du métier d'herboriste, avec quel statut, quelle formation, on va parler des formations, quels produits seraient autorisés à être commercialisés, etc. Donc, quelle place pour l'herboristerie en lien avec les professions de santé ? Aline Mercant, j'ai besoin d'un médecin généraliste et aussi anthropologue de la santé, chère Aline. Voilà, donc oui, pardon. Non, parce qu'on ne s'est pas rencontrés. Vous avez bien compris qu'on ne s'était pas encore rencontrés avant. On a pu converser, mais on se sent sans se voir. Donc, chère Aline Mercant, donc on a besoin d'avoir effectivement votre point de vue d'anthropologue, vous qui avez étudié donc les différentes, on va dire, formations qui existent en France sur la phytothérapie, entre autres. Donc, quel regard vous avez, s'il vous plaît?
Alors bonjour à tous et j'espère contribuer à la grande qualité de ce débat pour l'instant en tout cas et vous réveiller un petit peu si vous êtes en postprandial. Donc effectivement je suis médecin, anthropologue de la santé et à ce titre j'ai réalisé une thèse dans laquelle j'ai étudié les différentes manières de former au conseil en plantes et ou à la prescription. Et donc je me propose de vous décrire un petit peu les résultats, qui fait quoi, avec quelle formation, avec quelle problématique, et derrière j'espère que se dessinera l'herboriste idéal tel qu'on pourrait l'imaginer ou le rêver. Alors, qui conseille en premier lieu? Quelque chose dont on parle rarement et qui est pourtant très important, c'est l'automédication. Hein, les anthropologues de la santé partent du principe que 80% du soin, quelle que soit la culture, se déroule par l'automédication. Et en plantes, c'est particulièrement vrai. Et l'automédication, jadis, c'était peut-être effectivement d'aller ramasser la plante que notre grand-mère nous avait enseignée avec des préparations et des techniques populaires. Et maintenant, en fait, globalement, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est lire des livres, c'est aller sur Internet, lire des blogs, des forums et les lettres, les fameuses lettres. Hein, les lettres auxquelles on s'abonne, Santé, Nature, Innovation, Pure Santé, Néonutrition, la lettre du docteur Machin, la lettre du professeur Truc, la lettre du naturopathique, etc., etc. Alors moi je suis abonnée, je passe une journée si je veux toutes les lire, tous les jours. Et les gens vont recourir aux plantes énormément en passant par ce biais. Et d'où les témoignages qu'on a, ils arrivent avec une liste, je ne parle pas de certains sites sur lesquels on a mis un petit peu le haut là, mais vous voyez de quoi je parle. Quand ils ne sont pas effectivement en automédication, ils vont consulter un certain nombre de thérapeutes, on va dire de médecine complémentaire. Alors médecine complémentaire, on va avoir les herboristes, puisque nous avons des herboristes qui n'ont pas de statut, mais qui sont quand même destinés à conseiller. On a des naturopathes qui quand même conseillent énormément de produits à base de plantes, compléments alimentaires. On a de plus en plus de thérapeutes qui sont par exemple ostéopathes. Moi maintenant j'ai mon magnétiseur qui a une liste de plantes qui coche et qui donne aux patients qui vont le voir pour se faire magnétiser. Puis alors après je peux égrener hein, les thérapeutes de médecine traditionnelle évidemment, chinoise, ayurvédique et blablabla. Et puis après, vous avez aussi le PNListe, le chaman, enfin bon voilà, c'est pas la peine, en gros tout le monde. C'est à peu près ça. Alors après, il y a quand même le pharmacien. Alors pharmacien sous réserve qu'il soit formé. Enfin, je suis désolée, mais c'est un des débats. Tu vas pas me contredire. Et aussi qu'il soit intéressé par les plantes, parce que bon, il y a des pharmaciens qui ne s'intéressent pas aux plantes et ils ont le droit. C'est pas nécessairement actuellement leur cœur de métier. Les médecins, je sais pas pourquoi je vous en parle, parce que vous avez l'impression qu'il y a plein de médecins phytothérapeutes, parce qu'il y en a qui ont parlé là, mais il n'y en a pas en réalité, très peu, très très peu de médecins. Les médecins n'ont rien dans leur cursus sur la phytothérapie et suivent très peu les DU de phytothérapie. Bon voilà. Et puis le producteur, mais le producteur, on va en parler largement, qui voilà, a une position un peu particulière là-dedans. Alors quelle formation? Parce que vous voyez déjà, ça part très disparate. Alors, zéro en médecine. En pharmacie, je laisse les pharmaciens nous expliquer, c'est seulement la fac, en gros. Hein, vous avez des formations qui sont à géométrie variable en fonction de la fac. Les diplômes universitaires et diplômes interuniversitaires qui sont plutôt en expansion, ça marche, il y a plus en plus de demandes. Et on en discutait encore, c'est une minorité de médecins, beaucoup de pharmaciens. En gros, c'est à peu près la composition, quelques préparateurs. Il y a certaines facs qui acceptent aussi des non-médecins, non-pharmaciens, mais c'est relativement marginal. Les écoles d'herboristerie, qui sont en train justement d'essayer de se fédérer, qui revendiquent un savoir-faire, une expérience, mais on réfléchira un petit peu justement sur les contenus rapidement. Et les écoles de médecine complémentaire, bon, naturopathie bien sûr, hein. Alors vous avez des hygiénistes, des non-hygiénistes, il y en a qui sont des machines à donner des compléments alimentaires, auxquels ils ont parfois un intéressement, on n'est pas toujours chez les bisounours, hein. Et puis vous avez aussi maintenant des modules d'aromathérapie dans les cursus d'ostéopathie, de kinésiologie, c'est très, voilà, c'est d'ailleurs un débouché pour les formateurs, hein, c'est d'aller créer des formations dans toutes les écoles de médecine complémentaire. Avec une particularité aussi, c'est qu'on a beaucoup d'enseignants qui n'ont jamais soigné un patient. Alors ça, c'est, bah oui, on a des enseignants qui enseignent à des enseignants, qui enseignent à des enseignants, mais il n'y a pas de patient dans l'histoire, ou rarement. Bon, je ne cherche pas à être caustique, hein, mais c'est quand même un petit peu la réalité du terrain.
Mais ça nous va très bien, hein, on va continuer.
Alors après, je continue, mais ça ne va pas s'arranger. Après, on a les formations d'entreprise. Alors les formations d'entreprise, faut être réaliste. Hein. Moi, si je suis une entreprise, je vais former des gens à penser que mon produit est le meilleur. Donc j'ai tout un discours là-dessus. Et je vais essayer de recruter tous les gens qui sont susceptibles quand même de vendre mon truc. Donc pour la formation loyale et désintéressée, c'est peut-être pas là que ça se passe. Mais y a énormément de gens qui se forment comme ça. Énormément. Alors après, vous avez aussi les formations populaires, dont on ne parle pas beaucoup. Vous pouvez faire votre stage, je fabrique ma teinture mère, votre stage avec souvent des gens qui ont suivi des écoles d'herboristerie. Et je ne me moque pas du tout de ces stages, parce qu'il y en a qui sont de très très bonne qualité. Mais évidemment, c'est un peu disparate. Alors vous imaginez bien que les contenus sont disparates, les niveaux de connaissances sont disparates, les prérequis sont disparates, etc., etc. La qualification et la pratique derrière, vous avez tout et le reste. Et en fait, alors souvent il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de sincérité, il y a des tas de gens qui croient très très fort à ce qu'ils font et qui ont vraiment envie d'apporter quelque chose et qui le font avec beaucoup de... C'est pas un monde de cyniques cherchant toujours à vendre quelque chose, quoique des fois, mais pas toujours. Et en fait, ce niveau de compétence, là j'attaque sur les problématiques, le niveau de compétence, il est disparate au sein même de chaque corps professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, les DU, ils ne se valent pas tous, je suis désolée. Les écoles d'herboristerie, ça dépend des années, ça dépend de plein de choses. Vous avez des gens donc qui vont sortir de là avec des connaissances extrêmement différentes, des manières de travailler très différentes, des paradigmes différents. Parce qu'en phytothérapie, on a l'impression que c'est la même chose pour tout le monde. Mais faire de la phytothérapie spagyrique, ou faire de la phytothérapie scientifique, ou faire de l'aromathérapie holistique, ça n'a juste rien à voir. Il y a des plantes, ok. Mais philosophiquement, c'est pas la même chose. Et en pratique, c'est pas la même chose non plus. Alors après, je pense que ça nous a fait du bien d'avoir une Québécoise. Parce que chez nous, on a des querelles de frontières professionnelles qui sont, je dirais, un peu culturellement ancrées. Et donc, les médecins n'aiment pas les pharmaciens qui leur piquent des trucs. Les pharmaciens n'aiment pas les herboristes qui vont leur piquer des trucs. On est tout le temps tous en train de se battre. Moi, je veux pas que tu vaccines. Et on est toujours en train de se battre parce qu'on se fait toujours manger d'un côté ou de l'autre. Et dès qu'on commence à évoquer de changer un peu les frontières, ça crée des espèces de frustrations et de crises identitaires qui sont de l'ordre de l'émotionnel. Hein. Et si on ne prend pas en compte cette dimension émotionnelle, je pense que c'est une des grosses difficultés pour arriver à créer un diplôme d'herboriste, entre autres. Donc on a tous ces monopoles et tous ces discours rationnels en apparence qui cachent derrière des sortes de blessures narcissiques. Hein. Je ne veux pas avoir un discours... Mais oui, on est des grands blessés, les médecins et les pharmaciens, quand même. Non ? Bon, ils confirment.
Un peu de hypertuit, peut-être ? Non, pas de...
Oui, j'en prescris. Hein. C'est... Voilà. Alors après, là-dessous, il y a énormément d'hypocrisie qu'on connaît tous par cœur, parce qu'on vit avec tous les jours. Alors, pas de diagnostic. Ah, c'est bien connu, hein. Il n'y a que nous, les médecins, qui faisons le diagnostic. Hein. Personne d'autre n'en fait. Vous êtes tous d'accord, hein. Pas de problème. L'allégation et l'indication, c'est clair, la frontière entre les deux. Voilà. Hein. Et le complément alimentaire, c'est pas un médicament. C'est pas thérapeutique. Ça, c'est clair. Non, c'est pas clair. Bon. Y a des hypocrisies aussi dans les frontières qu'on met. Alors moi je traite la colopathie mais pas le Crohn. Alors le Crohn il arrive, je dis non, moi je m'en occupe pas, allez voir le médecin. Oui bien sûr, c'est comme ça que ça se passe sur le terrain aussi. Je précise que les patients sont particulièrement difficiles parce qu'eux ils s'en foutent des frontières, mais complètement. Donc eux ce qu'ils veulent c'est qu'on les soulage. Et si vous avez décidé de respecter les frontières, ils vont tout faire pour vous faire lâcher là-dessus, parce qu'eux, ils sont en demande, ils ont effectivement besoin qu'on les soulage, et si vous proposez quelque chose qui est marqué dessus, patenté par l'université ou pas, herboriste reconnu ou pas, c'est pas leur problème. Donc je tiens quand même à rappeler que le patient ne respecte pas les lois, c'est pénible. Alors, je suis sérieuse quand même, hein, je précise. Après, on ne parle pas trop du marché et de l'économie. C'est des produits chers. Moi, j'ai des patients qui ne partent pas en vacances pour acheter leurs compléments alimentaires. Alors, ça me désespère. Et est-ce que vraiment on est obligé, en phytothérapie, de dépenser 300, 400, 500 euros par mois pour se soigner? Alors, vraiment, merci. Et donc, je pense qu'il y a une éthique aussi du soin qui est quand même d'essayer de faire des conseils accessibles et raisonnables. Parce qu'on est dans une société où les gens multiplient les recours. Donc, ils voient 17 thérapeutes. Et moi, je leur fais ouvrir les placards. Et j'ai 6 boîtes de chaussures remplies de compléments alimentaires, d'homéopathie, de médecine ayurvédique, d'huile essentielle avec 4 fois le même flacon, périmée depuis 5 ans. Et les plantes dans tout ça. Parce qu'il y a des plantes aussi. Et est-ce qu'on fait vraiment du bon travail quand on fait ça? Et il n'y a personne qui fédère, il n'y a personne qui sait ce que font. Les thérapeutes ne savent pas tout ce que font leurs patients. Aucun thérapeute ne sait tout ce que fait son patient. Parce qu'on ne dialogue pas entre nous, et en fait on ne dialogue pas tant que ça avec le patient, puis le patient il sait très bien ce qu'on n'a pas envie d'entendre, donc il ne nous le dit pas. Bon, ça c'est encore un autre problème. Mais moi j'aimerais bien qu'un herboriste soit aussi un régulateur, c'est-à-dire qu'il fasse un peu le ménage des fois dans les boîtes à chaussures. Alors, ça ne fait pas vendre, mais ça pourrait être intéressant d'un point de vue sanitaire. Et aussi pour que les gens puissent se consacrer leur budget à des choses utiles. La qualité, bon, je pense qu'on l'a déjà évoqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a quand même des discussions sur la qualité pharmaceutique qui ne sont pas tout à fait illégitimes. Il y a aussi la question de la qualité des compléments alimentaires qui est un vrai problème. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait avec cette espèce de pharmacopée? Paul Goetz parle du double diagnostic. C'est un phytothérapeute assez réputé à juste titre. Il nous dit, le médecin, quand il fait un diagnostic, après, il faut qu'il diagnostique le bon produit. Mais franchement, c'est plus compliqué que la médecine, souvent. Et après, il y a aussi la question... dans les hypocrisies, conseil, prescription. Voilà, toi, tu fais du conseil, moi, je fais de la prescription. Mais en pratique, on fait la même chose. Bon, après, ça, c'est des questions de frontières. J'ai bientôt fini. La responsabilité du praticien aussi. Hein, ma chamane qui fait de la phytothérapie, elle fait arrêter les médicaments aux gens, elle leur donne des tas de trucs, mais après quand ils font un infarctus, c'est moi qu'on réveille à 2h du matin. Et elle est responsable de rien. Bon, il y a une réflexion quand même à mener sur la responsabilité quand on conseille des choses en thérapeutique. Il faut peut-être le rappeler. L'environnement, alors ça on n'en parle pas du tout. Pourtant, c'est quand même une vraie préoccupation. L'aromathérapie, c'est génial. Mais les Chinois sont en train de s'y mettre. Et si on achète tous demain un flacon d'hélicryse, il n'y aura plus d'hélicryse, même bien avant qu'on l'achète tous. Et j'aimerais qu'on remette quand même cette question dans le débat, parce que l'herboriste, ça devrait être aussi quelqu'un qui attire l'attention sur la question environnementale. Et que se soigner avec des plantes, c'est pas juste bien parce que c'est naturel, c'est aussi une prédation de la nature dans beaucoup de circonstances. Donc peut-être qu'on réfléchisse à une herboristerie responsable, voilà, sur le plan de l'environnement, j'y arrive. Et pour finir, je pense que ça pose plus généralement la question de la médecine intégrative. On veut créer une nouvelle profession donc qui va bouleverser les frontières. Si on bouleverse des frontières chez des gens blessés narcissiquement, il va falloir se demander comment on travaille ensemble. Donc il va falloir quand même qu'en France, les autorités de santé se posent la question et peut-être prennent des décisions, organisent des choses autour de la notion de médecine intégrative. Parce qu'on est un peu en retard là-dessus quand même. Et donc j'espère que la profession d'herboriste, ça va être l'occasion qu'on se demande un petit peu comment est-ce qu'on peut mieux soigner les gens sans nécessairement leur faire acheter 10 000 tonnes de médicaments qui menacent l'environnement parce qu'on ramasse trop de trucs, et qu'on puisse dialoguer les uns avec les autres. On a tous envie de déménager au Québec parce qu'ils ont l'air beaucoup plus détendus là-dessus. Et que ce soit profitable aux patients au final. Voilà.
Grand merci, Aline.
On s'est dit, il faut une femme comme elle pour débuter l'après-midi. Vous voyez, là, au moins, ça déménage, c'est parfait. Alors, revenons à la pharmacie. Samy, prenez le micro, non, vous l'avez sous les yeux. Samy Korkos, donc pharmacien. Dans le Diois, nous sommes dans le département de la Drôme. Nous partons de Livron, nous remontons jusqu'au col de Menet pour ceux qui connaissent, etc. Vous avez dit, c'est un département où vous avez ce qu'on appelle la bio-vallée. C'est un des départements de France où vous avez le plus de bio. Vous avez 6% aujourd'hui d'agriculteurs bio en France. 17% en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est pas grâce à Laurent Wauquiez. Et vous avez 36% qui est un grand écologiste. qui le prouve. Et, et vous avez 36% donc, d'agriculteurs bio qui sont dans cette fameuse bio-vallée. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a quand même tout un terreau donc, assez fertile. Et donc, nous avons notre pharmacien. Je ne sais pas où, Samy, vous êtes à quel endroit dans le Diois. Je parle du Diois, mais c'est très large. Donc, pas c'est très large. C'est au pied du Vercors, mais c'est où?
Alors, j'exerce à Die et je vis à Saillant.
D'accord. Donc, une commune pas libre, mais complètement au... voilà, au pied de l'école de la Chaudière, c'est ça?
Exactement.
Ah, bah, d'accord. Bravo. Donc, alors, le point de vue du pharmacien sur ce qu'il attend donc, en termes de reconnaissance, on va dire, des herboristes, comme vous travaillez aussi donc, avec eux, on a bien compris qu'on ne pouvait pas acheter quand on était pharmacien donc, directement chez le paysan herboriste. Enfin, qu'est-ce que vous attendez? Quelle piste vous avez envie de lancer?
Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet espace d'expression. C'est très précieux. Donc, c'est avec un peu d'émotion que je me présente devant vous parce que c'est beaucoup de reconnaissance pour tout le monde ce que vous faites et c'est très positif, je trouve. Alors, bon, conscient du diagnostic posé par Aline, je vais essayer de pas laisser ma faille narcissique de pharmacien influencer la présentation. Donc, je vais passer sur mon parcours qui pourrait justifier ou éclairer certaines prises de position que je vais avoir qui peuvent être justes pour certains, limites pour d'autres, voire carrément subversives pour d'autres, mais c'est pas grave.
C'est-à-dire que là, vous avez fait un teasing en voilà. Gros et vous dites rien, quoi. Donc
exactement. Donc nous est confié un peu la question de mettre la loupe sur l'avenir de l'herboristerie et sur quel périmètre va lui être consacré pour son exercice dans le futur. Alors, à travers en fait la réalité de notre quotidien, de mon quotidien et de mon exercice professionnel, je voudrais vous partager deux axes principaux que je pense être des voies d'exploration intéressantes. Le premier axe, ce serait de renforcer, de nous aider à être dans une relation plus proche entre les pharmacies d'officine et les pharmaciens, et bien sûr les médecins, mais on va en parler après. Alors, donc là, je parle spécifiquement de la pharmacie d'officine, d'être plus en relation avec les productrices, producteurs, les paysannes, paysans herboristes, les cueilleurs, les cueilleuses, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en attendant d'avoir la possibilité de s'adresser à eux pour acheter nos matières premières, ce qui est très fortement souhaitable, et j'essaierai de développer ça un peu, avant que cette législation soit disponible, déjà, ça nous permet à nous, pharmaciens d'officine, d'orienter nos patients quand c'est nécessaire et quand ils recherchent un extrait végétal ou une plante de qualité. Et c'est déjà, ce serait déjà un pas en avant, je crois. On est un certain nombre à faire déjà ça, mais c'est quelque chose qu'on... J'espère que les pharmaciens qui souhaiteront rentrer dans une démarche de phytothérapie, parce qu'effectivement dans phytothérapie il y a plein de choses, de rentrer dans une démarche de phytothérapie éthique et profitable pour tout le monde, qu'on puisse partager ces démarches avec eux. Et dans notre quotidien, être dans cette relation étroite avec les producteurs de notre territoire, ça nous permet donc une meilleure transmission, un meilleur partage des savoirs avec nos patients. Et je pense, peut-être, mais je pense que ce sera nettement vérifiable, de privilégier une meilleure préservation des ressources et des espaces naturels qui sont, bien sûr, la base, ce avec quoi nous sommes interdépendants pour pouvoir profiter de plantes médicinales efficaces. C'est évidemment un levier de développement économique pour les territoires et pour tous les acteurs de la filière, cette relation étroite, ces partenariats ouverts. Et ça, à mon avis aussi, ça permettrait clairement la réhabilitation, voire la redécouverte, la libération de nos plantes locales, puisque aujourd'hui nos patients rentrent spécialistes de l'interaction, enfin de la synergie entre le poivre et le curcuma, et connaissent les taux de principes actifs de l'arpagophytum qu'il faut prendre par jour pour traiter leur arthrose, leur arthrite.
Leur douleur articulaire.
Pour voilà, leur douleur articulaire, mais ignorent souvent ou ne savent pas reconnaître une reine des prés ou la prêle. Voilà. Et donc il y a aussi quelque chose à faire à cet endroit. Et cette démarche permet une sensibilisation des patientes et des patients avec nos plantes locales et donc fait gagner en autonomie au quotidien, dans leur façon de se soigner, nos patients. Et cette autonomie qui est souhaitable va libérer du temps médical pour les cliniciens. Et aujourd'hui, du temps médical, on en a grandement besoin. Donc, transmettre plus de savoir et plus d'autonomie à nos patients, je pense que c'est une démarche faisable. Et ça ne peut se faire que en travaillant tous ensemble, je crois. Donc, quel futur pour l'herboristerie ? Souhaitons-le clairement enraciné dans les territoires et voilà, clairement enraciné. Et deuxièmement, souhaitons-le coopératif. Ça, c'est une deuxième chose que je vais développer. Je crois que j'en appelle de mes voeux pour cette future législation, qu'elle favorise le travail ensemble entre les différents corps de métier. Parce que le deuxième axe que je souhaite vous partager, c'est une initiative qu'on a prise avec un médecin phytothérapeute, il y en a quand même quelques-uns dans la Drôme, c'est de créer un groupe de partage de pratiques et de connaissances autour de la phytothérapie. Ce groupe est composé de gens qui sont dans la pratique clinique, donc pharmaciens, médecins, naturopathes, infirmières, sages-femmes, voilà, les gens qui sont au quotidien avec des patients. J'insiste sur le fait que la porte d'entrée des connaissances dans ce groupe de partage, c'est la plante simple. C'est-à-dire qu'on aborde les propriétés de la plante, pas des mélanges, des synergies, des 8 huiles essentielles avec les 14 oligo-éléments et les 15 vitamines et les 3 probiotiques dans la même gélule. Non, vraiment de revenir avec la porte d'entrée de la plante simple pour se reconnecter avec les propriétés de chaque plante et de nouveau être dans l'autonomie. C'est-à-dire que le jour où tel labo ou tel labo de compléments alimentaires nous proposera des tarifs absurdes ou une qualité environnementale ou une éco-responsabilité qui ne nous convient pas, nous aurons la possibilité de nous retourner vers les simples et de nous retourner vers les plantes et avec ce partenariat et d'ancrage dans les territoires pour retravailler tout simplement avec les plantes. Alors, j'ose l'audace d'une première proposition, puisqu'on est chez les sages, et en vue de cette loi, peut-être qu'un jour nous aurons la possibilité, à travers un conventionnement, une habilitation de groupe de professionnels, je dis bien de groupe de professionnels, pas juste un accord bilatéral entre pharmaciens et médecins prescripteurs, mais de groupe de professionnels avec qui associent les producteurs, enfin les agriculteurs, qui associent les naturopathes, les praticiens qui utilisent les plantes et qui les produisent, qui les contrôlent, qui les conditionnent, de pouvoir proposer à nos patients et nos patientes des préparations à base de plantes à nouveau remboursées par la sécurité sociale. J'espère qu'un jour on pourra revoir ça. Alors, j'ai volontairement pas mis le nom des plantes que je vous présente. Une petite devinette, donc est-ce que quelqu'un reconnaît ? Pardon ? Voilà, l'aubépine, merci. Est-ce que les personnes qui ont reconnu peuvent me dire avec quelle drogue ils ont réussi à reconnaître la plante, s'il vous plaît ? D'accord. Ok, on continue. J'ai fait un peu d'animation parce qu'après manger, c'est compliqué. Alors là, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais... Oui, Achillée millefeuille, bravo. Je vous pose pas la question de grâce à quoi vous l'avez reconnu non plus. Puisque donc je vous présente en fait là sur ces diapos, je vous présente des drogues qu'on peut se procurer facilement en pharmacie, hein, donc celles qui sont à gauche et à droite, celles que je n'ai pas le droit d'acheter au producteur, mais que je peux orienter éventuellement vers le paysan herboriste, paysanne herboriste, producteur, cueilleur, pour avoir ce type de qualité. Alors en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour la sommité fleurie d'aubépine qui n'est pas libérée. Donc je ne peux pas le leur acheter et eux ne peuvent pas la vendre. Donc il faut sortir de cette absurdité. Une dernière pour la route. Oui, la reine des prés, bravo. Ouais. Voilà, donc, j'en dis pas plus, je laisse l'exemple parler de lui-même. Alors, un peu d'algèbre simple, tout le monde va comprendre, puisque je ne me sens pas légitime pour dire quel doit être le diplôme d'herboriste, par qui, comment. J'ai un avis qu'on va partager ensemble à travers le débat, mais je pense que de façon simple, plus de diplômes égale plus de diplômés. Donc plus de compétences mises à disposition de nos patientes et de nos patients. Et ça permettrait, je crois, de mieux concurrencer les ventes en ligne, les ventes par correspondance et leurs allégations qui sont parfois assez absurdes et qui incitent quand même à une consommation de plantes déraisonnée. Je reviens sur cette notion de la ressource. Effectivement, si à un moment donné le monde entier veut se soigner avec des plantes, on va avoir un problème de ressources. On a déjà un problème de ressources. Peut-être que d'autres intervenants vont en parler ensuite. Mais je crois qu'il faut vraiment sortir de la phytothérapie utile utilitariste et réintégrer la dimension environnementaliste dans notre pratique. C'est vraiment crucial, je crois. Et donc, à travers cette mise à disposition de plus de personnes formées, je crois qu'on a plus de double contrôle. Le double contrôle étant le médecin fait le diagnostic, prescrit, et le pharmacien délivre. C'est pas une démarche absurde, ça. C'est quelque chose qui a du sens. Je pense qu'on peut réduire beaucoup de problématiques d'interaction. Alors, je parle d'interaction notamment avec la nouvelle phytothérapie moderne qui utilise des extraits extrêmement concentrés et donc avec une activité pharmacologique nette et qui peut, oui, interagir avec les médicaments. Mais il faut pas se tromper non plus de coupable. C'est comme quand on vous dit attention, le vélo c'est dangereux. Non, le vélo c'est pas dangereux, c'est se faire renverser par une voiture qui est dangereux. Donc une voiture c'est dangereux, oui. Mais se déplacer en vélo, ça n'a pas une dangerosité. Voilà. Il faut remettre un peu la notion de danger, réattribuer la notion de danger du bon côté, enfin, du côté qui est juste. Voilà. Et tout ça peut permettre une filière plus dynamique. Alors,
une petite dernière.
Ouais, j'arrive à la conclusion. En synthèse, nos patients qui sont au centre de la problématique doivent c'est déjà le cas, mais la législation qu'on souhaite doit permettre aux patients de revenir au centre de cette problématique, sortir effectivement de nos un peu des guerres de chapelle et permettre aux patients d'accéder au service médical rendu par les plantes et donc d'interagir avec un comptoir d'herboristerie, de pharmacie, d'un paysan herboriste, avec les producteurs, les productrices, d'interagir avec les cliniciens et surtout, bien sûr, de toute façon, soyez rassurés, le patient pourra toujours, pourvu qu'on la préserve, et ça c'est vraiment la base de toute notre démarche, et pourvu qu'on préserve la nature, l'environnement, le patient pourra toujours aller interagir avec la nature. D'ailleurs, à ce titre, pour finir, deux choses que je voudrais vous partager, une assez pragmatique et puis une plus poétique et politique. C'est cette petite étude tirée de Wikifito, qui est un site correctement modéré par Jean-Michel Morel, qui est une étude qui montre les effets de la balade en forêt chez des patients, sur notamment la tension, sur l'activité immunitaire. Donc, même si on n'a pas de loi qui nous permet de travailler correctement, dans tous les cas, on pourra toujours dire à nos patientes et nos patients d'aller se balader dans la forêt. Ça leur fait déjà un effet thérapeutique. Hein, donc, préservons la nature, c'est la première chose. Et pour finir, je vous partage... Enfin, j'essaye.
Bon, sinon vous nous le dites.
Bah, pour finir, je vous partage cette phrase qui m'a été récemment apprise par dans mon entêtement à continuer à acheter mes billets de train au guichet d'une gare à un être humain, hein, une petite part de préservation du service public plutôt que de l'acheter sur Internet. Un cheminot m'a appris cette phrase que je pense pouvoir résumer un peu ce que je souhaite vous transmettre. C'est d'Emerson, cette phrase de la conversation qui est le laboratoire et l'atelier de l'étudiant. Je souhaite intensément et de tout mon cœur que le législateur sera à la hauteur de ce rendez-vous et saura nous proposer une loi qui nous permettra d'avoir cette conversation sereinement. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Salut. Alors ça, c'est valable sauf si le cheminot est en grève. Hein.
Oui. Juste pour finir, on vous donne rendez-vous dans la Drôme, puisqu'on vient de là, le 12 et 13 mars, oui, 2020, autour du premier colloque que va organiser la Biovallée sur les PAM et qui fera l'objet pour ce premier colloque de la présentation de la filière et de sa dynamique dans la Drôme et qui sera le premier rendez-vous d'une réunion bisannuelle, a priori, qui ensuite proposera un espace de retrouvailles à tous pour travailler sur la filière plante en France et ailleurs.
Voilà. Ce sera à Heure, ça ?
Ce sera à Heure sur l'écocyte.
L'écocyte.
Ouais.
Okay. Dans la Drôme. Merci à vous. Merci. Alors, nous allons rester, me semble-t-il, dans la Drôme. Mais oui, nous allons rester dans le Diois. Donc, avec vous, donc Claire Montesinos, parce que vous êtes paysanne herboriste. Alors, je ne sais pas où, est-ce que vous êtes à côté de la forêt de Soux aussi ou pas ? Vous êtes à quel endroit ? Vous êtes. Appuyez. Non, j'ai bien compris que j'étais en Diois, mais où précisément ?
Nous, au-dessus de Die, entre Die et Luc en Diois, à Barnave.
Oui, ah oui, d'accord.
À 12 km de Die. Oui, voilà, donc voisine.
Donc pas très loin de Boulle, qui est du col de Grimone.
C'est ça.
Voilà. Alors on continue. Non, excusez-moi, c'est un tropisme, là, c'est un truc de malade, de quelqu'un qui fait du vélo un peu partout en France. Le point de vue de l'herboriste, là, ça nous intéresse bien aussi, donc, puisqu'on est dans la prospective aussi. Donc qu'est-ce que vous attendez ?
Déjà, je suis très reconnaissante de cette journée. Je suis aussi, donc nous, avec mon mari, ça fait 30 ans. Donc, on s'est installé en 89. Donc, je parle un tout petit peu du parcours parce que c'est quand même intéressant. D'origine citadine, donc on pourrait dire hors sol. Et ça me donne un regard très complice et accueillant vis-à-vis des jeunes qui souhaitent s'installer et qui sont débutants en la matière, mais plein d'envie et plein d'élan, et comme moi j'ai pu l'être. Donc d'une formation scientifique au départ qui m'a bien rendu service, parce que sans argent, il fallait monter des dossiers et avoir le droit de s'installer en agriculture, vu que c'était la seule possibilité de pratiquer l'herboristerie, puisque l'herboristerie n'était pas reconnue. Donc rapidement, j'ai fait une école d'herboristerie. Donc j'ai été quand même reconnaissante aussi au fait que ça existe. Parce que du coup, la transmission agricole existait, la transmission herboristerie existait, mais ça, c'était un aspect. Parce que finalement, qu'est-ce qui m'a énormément transmis ? Eh bien, c'est les paysans eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on s'est installé, qui est-ce qui m'a appris à distiller ? Qui m'a appris à faire les semis de lavande ? Qui m'a appris, qui m'a mis tous les livres à disposition ? Qui ? Eh bien, tout le temps, ça a été des personnes. Ça a été des êtres humains, des à la retraite souvent, qui avaient vécu ces métiers-là avec passion. Voilà, donc moi, je suis quand même passionnée. Et je trouve que c'est un métier magnifique. Et la semaine dernière, je me disais, qu'est-ce que je vais dire ? Et je regardais les plantes autour de la ferme et je me disais, mais en fait, moi, ce qui me vient, c'est la gratitude. C'est-à-dire que si j'ai besoin de racines de bardane, parce que je sais que la racine de bardane, c'est tellement puissant. Eh ben, je regarde autour de moi et j'ai beaucoup de racines de bardane. Si je regarde le plantain, si je regarde la chélidoine, si je regarde la quillée millefeuille, et je me dis, cette connaissance du terroir et cette connaissance de la plante qui s'est fait de façon, je disais, c'est un peu comme la musique, hein. Au début, on connaît rien, quoi. Au début, on ne sait même pas les noms, on ne sait pas à quoi ça sert. Et au fil du temps, on crée une relation très, très fine avec les plantes, et c'est très global. C'est pas très mental ou ci ou ça, c'est global. C'est la relation qu'on a avec son environnement. Voilà, donc en fait, ça c'était l'aspect parcours. Donc nous, on a eu, je trouve, une chance. C'est-à-dire que mon mari est apiculteur. Moi, j'étais plus sur le sujet des plantes, de la cueillette, parce que tout simplement, on n'avait pas d'argent, donc la cueillette, c'est pratique. C'est la cueillette, il faut une faucille, un sécateur, une voiture pour se déplacer et on peut travailler. Donc voilà, un alambic qu'on nous a prêté, puis après qu'on a acheté. On est dans une région très traditionnelle de la distillation, ce qui fait que nous, on a été distillateurs. Et on est aussi dans une région très privilégiée, comme il y a beaucoup, beaucoup de gens qui rayonnent autour des plantes médicinales, donc on n'est pas bizarre, quoi. C'est familier. Et du coup, c'est quand même un peu confortable, cette situation, il faut reconnaître.
C'est depuis 50 ans que ça existe comme ça. Il y a une tradition qui est arrivée aussi avec des Suisses, avec des Hollandais au départ, qui ont regardé un petit peu en se disant, c'est quoi ça là-bas. Et après, tout s'est structuré.
Voilà. Donc, en fait, nous, on fait partie un peu de l'histoire, mais notre histoire, elle est un peu différente. Il y a eu des grosses structures qui se sont créées. Donc, il y a de l'emploi. Il y a environ 250 emplois dans la vallée de la Drôme autour de la plante médicinale. Il y a tous les types d'agriculteurs, c'est-à-dire que quand on parle des métiers d'herboristerie, il y a les producteurs qui veulent juste produire, et eux, ils peuvent avoir de l'élevage, ils peuvent avoir autre chose. Et puis, il y a le paysan herboriste. Alors là, je vais revenir un peu là-dessus, parce que le paysan herboriste, puisque c'est notre sujet, pour moi, ce terme... Il m'a apaisée. Parce que quand j'ai commencé, mon statut c'était agricultrice, mais moi je n'étais pas agricultrice. Après, je me suis dit, bon, je suis un peu plus distillatrice qu'agricultrice. Donc je me suis appelée distillatrice. Et puis, mais je ne suis pas que distillatrice. Donc, et après, là, depuis 2 ans, depuis qu'il y a ces réunions autour de la législation, grâce à Thierry, avec tous les partenaires, mais quand même insufflé beaucoup par Thierry. Ah, paysan herboriste. Et là, depuis 2 ans, j'ose dire paysanne herboriste. Et ce que j'observe, c'est que d'habitude, il fallait toujours que... C'est quoi mon métier ?
Justifié, oui.
Et c'était long à raconter. Là, c'est très court. Paysanne herboriste. J'habite un pays, je connais les plantes de ce pays, je connais les habitants de ce pays parce que finalement on va cueillir chez les habitants du pays qui sont les producteurs en bio. Donc dans le Diwa on a de la chance, mais voilà, des plantes sauvages il y en a partout. Hein. Après il faut savoir reconnaître les lieux de cueillette, mais voilà, pour dire que ce terme paysan herboriste c'est un terme qui va très très bien. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec un éleveur. J'étais pas du tout dans ma région et je dis ah oui moi je suis paysanne herboriste et il sourit et en fait je me dis oui bah bien sûr il reconnaît, il n'y a pas besoin d'explication, c'est juste c'est ça, j'habite un pays et je suis herboriste même si c'est pas reconnu. Alors ça c'est l'aspect un peu réglementaire.
Alors quel lien vous souhaiteriez avec les professions de santé? Je suis obligé de resserrer un tout petit peu les choses, ouais. Parce que c'est vrai, mais en même temps c'est formidable parce que vous nous envoyez de l'humain. Et avant tout, votre boulot, c'est ça. Donc, effectivement, ceci, cette appellation de paysan, donc de paysanne herboriste qui vous a donc beaucoup apaisé. Maintenant, la relation que vous espérez demain, puisqu'on fait la prospective, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous... Allez, on y va. Dans un monde merveilleusement idéal, quelle serait votre place par rapport donc aux autres rouages, on va dire, de ce métier?
Alors, moi, ce que j'observe, c'est la différence entre maintenant et il y a 20 ans. C'est-à-dire que maintenant, Samy, il s'intéresse à nous. On a beau avoir notre faucille, notre sécateur, et voilà, eh ben, il y a un intérêt. Il y a un intérêt du pharmacien. Et pourquoi il y a un intérêt? Ça, je trouve c'est très important de revenir là-dessus, parce qu'il y a la connaissance. Il y a la connaissance de la qualité, il y a la connaissance de la nature et du produit transformé. Et donc, moi, mon souhait, c'est que le paysan herboriste, en premier, il est paysan. C'est-à-dire, il faut des connaissances qui sont très manuelles, très artisanales. Et ça, je trouve que dans notre rôle, la transmission, c'est énorme. C'est-à-dire que nous, on prend des stagiaires, on fait des portes ouvertes, on fait des formations. Et tous les membres du syndicat des simples dont je fais partie, on est tous pareils. On prend tous des stagiaires, on fait tous des formations, plus ou moins, si ça fait assez longtemps qu'on produit. Voilà, donc la reconnaissance par le pharmacien, mais ça a changé tout. Et après, la reconnaissance par le médecin. Parce que le médecin, c'est exactement la même chose. Soit chacun est dans sa case, c'est comme la législation, soit on quitte sa case et on est capable d'aller manger ensemble parce qu'on habite un même pays. Et pour moi, habiter un même pays ou un même quartier en ville ou une même région, mais ça compte beaucoup parce que en fait, je trouve qu'on est un maillon. C'est-à-dire on est un maillon dans l'histoire. Paysan herboriste, pour moi, c'est extrêmement ancien. J'étais enchantée de vous entendre parler. Parce que c'est tellement ancien, c'est tellement plus vieux que les médicaments, ça n'a rien à voir, quoi. Et donc on est un maillon dans une histoire de l'espèce humaine, mais on est aussi un maillon sur nos territoires. Voilà, ben moi, tout ce que je souhaite, c'est la complémentarité des connaissances.
Merci beaucoup, Claire. Merci à vous pour ce témoignage. Vous me faites penser à une très jolie phrase, même que j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu, c'était Albert Jacquard, et il disait « Tu es les liens que tu tisses ». Je trouve ça très beau, voilà. Vous le faites vous aussi, donc, localement, vous le faites dans votre très très beau donc, territoire. Et on va s'intéresser quand même maintenant aussi donc à nos écoles, avec la Fédération française des écoles d'herboristerie. Je crois que vous êtes 5, me semble-t-il, on peut me tromper, hein. Peut-être un peu plus. Bon, vous allez me dire, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, moi, j'adore les réponses qui commencent par non, parce que les gens sont obligés, effectivement, d'expliquer encore plus que le côté qui commence par... Vous n'avez pas dit non, c'est très bien. Alors, donc, Nathalie Avon, présidente de cette fédération, et puis à côté, donc, Ida Bost, qui est ethnologue, chargée de mission, donc, pour la fédération. Alors, voilà, maintenant aussi, votre point de vue. Demain, qu'est-ce que ça peut être? Complémentarité, racontez-nous, effectivement, votre maillon. Allons-y.
Je vais faire une très très brève présentation de la Fédération française des écoles d'herboristerie. Alors effectivement, elle regroupe 5 des principales écoles d'herboristerie en France. Écoles qui existent pour certaines depuis plus d'une quarantaine d'années, hein, donc ça fait quand même un certain temps. Je vais faire attention à ce que je dis parce que j'ai entendu ce qu'a dit Aline tout à l'heure et j'avoue
mais
que...
Mais non, allez-y
pas... ouais, ça va. On se connaît bien. À ce jour, on peut dire que l'ensemble de ces écoles ont formé plus de 10 000 élèves, puisque bon, qui dit école dit élèves, et qui exercent, pour bon nombre d'entre eux, une activité professionnelle en lien avec la formation qu'ils ont trouvée au sein de ces écoles. Alors,
c'est-à-dire qu'ils ont trouvé du boulot, quoi. C'est...
Pour certains, oui, bien
non,
sûr.
C'est important.
Je vais aller directement à ma conclusion. Nous sommes directement contactés par certaines structures diverses. On reçoit des offres d'emploi régulièrement, parce que nos élèves sont considérés comme ayant acquis un certain nombre de compétences qu'ils peuvent mobiliser, justement, dans certaines structures. Oui, bien sûr. Oui. Du coup, vous m'avez fait perdre le fil.
Non, je suis arrivé quand même à la conclusion, mais c'était...
Alors, l'idée de cette thématique, c'est comment nous envisageons, quelles sont les perspectives, le périmètre métier. Je vais parler de comment on l'envisage, ce périmètre métier, depuis que ces écoles existent, finalement. Alors, pour nous, un herboriste, c'est quoi? C'est surtout et avant tout un spécialiste de la plante. Pour citer quelqu'un qui a beaucoup œuvré et qui œuvre encore au sein des écoles d'herboristerie et qui rêve d'une reconnaissance du métier, pour Patrice de Bonneval, un herboriste, c'est ce qu'on appelle l'homme-plante. C'est-à-dire qu'il la connaît dans toutes ses dimensions, de manière à la fois complète et holistique, c'est-à-dire qu'il la connaît d'un point de vue botanique, hein, il est capable de la reconnaître sur le terrain. Il la connaît aussi dans sa dimension ethno-botanique, c'est-à-dire qu'il est capable de la réinscrire dans certaines traditions, dans certaines pratiques traditionnelles, mais aussi dans des pratiques d'ordre sacré, rituel, pourquoi pas aussi. La plante, c'est ça, il faut en parler. Il la connaît aussi, bien évidemment, de par ses propriétés médicinales. Hein, il a aussi des connaissances en chimie des plantes. Il est capable aussi d'en connaître les limites d'un point de vue toxicologique, bien sûr, et dans ses contre-indications médicamenteuses. Il la connaît, il sait comment on peut transformer ces plantes dans les différentes formes galéniques qu'elle peut représenter. Bon, ça a été pas mal évoqué ce matin. On passe de l'herboristerie, complément alimentaire, les listes, etc. Justement, il la connaît aussi d'un point de vue légal, et ça, c'est pas facile, hein, parce que vous l'avez bien compris, je crois, depuis ce matin. On est dans une espèce de succession de lois, de listes, etc., dans laquelle je pense que même les plus spécialisés ont du mal à se retrouver. Pour autant, nous invitons et nous incitons nos élèves à s'appuyer sur cette législation pour, sinon, se servir des plantes, j'ose dire, éventuellement en parler. J'éviterai le mot conseil, n'est-ce pas, puisqu'on est bien conscient aussi que le métier d'herboriste n'est pas reconnu. Il a été abrogé, Ida vous en parlera un petit peu mieux. C'est aussi quelqu'un qui a une connaissance de l'homme, parce qu'il y a homme, plante, hein, donc connaissance de l'homme dans sa dimension anatomique et physiologique, mais avec une approche holistique ou intégrative, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises. Donc son rôle, c'est quoi, finalement, aujourd'hui, hein, j'entends, aujourd'hui, c'est quoi? C'est, si on reste dans le domaine relativement officiel, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir un rôle très important en tant qu'acteur de la prévention. Il y a une très forte demande, il y a une véritable envie de redevenir autonome et redevenir acteur de sa santé, avec des pratiques, bien évidemment, qui ont été évoquées à plusieurs reprises, c'est-à-dire les gens vont chercher des infos, des plantes, sur des sites internet à droite à gauche, parce que ils n'arrivent pas à trouver forcément les personnes qui vont leur donner ce conseil-là. Donc l'herboriste, il est là pour ça. C'est son rôle. Il est aussi capable, justement, de faire la part des choses, c'est-à-dire que dès lors qu'il estime que la personne qui vient le voir relève d'un accompagnement médical, il va l'adresser à un professionnel de santé. Donc il a un rôle aussi en aval, c'est-à-dire que ça a été évoqué aussi ce matin. En fait, tout a été dit, je ne fais que relayer. Sur certaines pathologies lourdes, longues, chroniques, la médecine est parfois, la médecine allopathique est parfois, en perte de solution, et l'herboriste peut accompagner et complémenter les les traitements longs prescrits par des professionnels de santé. Donc, à mon sens, aujourd'hui, il me semble essentiel de travailler en concertation, en coordination avec l'ensemble des professionnels de santé, de manière à définir dans l'idéal, ensemble, nos limites dans le conseil et l'accompagnement. Il n'est en aucune manière question de se substituer justement aux professionnels de santé, mais juste trouver notre place, qu'on nous donne notre place. C'est tout. C'est pas, j'allais dire, plus compliqué que ça. Sinon, on vous l'a dit, hein, c'est, on va aller au Canada, quoi. Hein, c'est clair. Hein.
Alors, plus avec le réchauffement climatique, il fera de plus en plus chaud aussi donc là-bas. Donc, le Saint-Laurent est de moins en moins gelé, donc on peut y aller.
Ah oui, oui. Ouais. C'est dommage, j'aime bien faire du patin à glace.
C'est bien, oui. Puis, puis les baleines, ça, ouais, les aiment pas trop. Parce que, okay. C'est, voilà.
Bon, on va quand même rester un petit peu par là.
Petite conclusion.
Ah oui, déjà ?
Ah oui, parce que c'était 5 minutes et là, on est déjà à 7.
C'est vrai ?
Vous avez, là, vous avez explosé avec la TVA, oui,
c'est
je sais. Oui, c'est
pas... Et si je paye un peu plus
non. Non, non, je ne suis pas encore corrigé. J'ai fait ma carrière sans être achetée.
Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il nous semble essentiel de faire émerger des réseaux de soins, hein, c'est-à-dire travailler en complémentarité avec les professionnels de santé. Je ne pourrais pas conclure sans évoquer aussi une dimension qui nous semble essentielle. Je l'ai dit, l'herboriste, c'est quand même un spécialiste de la plante. Du coup, il n'est pas question de travailler avec des plantes qui sont de moindre qualité. Et pour ce faire, il me semble très important de favoriser, privilégier les circuits courts et donc d'être en relation avec les paysans herboristes, d'être en relation avec les producteurs, les cueilleurs, de manière à justement favoriser aussi un maillage territorial et de manière aussi à sensibiliser le grand public à ces... Enfin, justement, c'est le respect de la plante et dans la dimension justement, voilà, il y a une forte pression humaine sur la ressource et je pense qu'on joue déjà ce rôle-là. Et je dis que l'herboriste existe déjà, il faut juste encore une fois le reconnaître et lui donner sa place.
Grand merci à vous, Nathalie Avon. À vos côtés, donc, Ida Bost. Voilà, alors, ethnologue, allons-y, complétons.
Donc, j'ai fait ma thèse sur l'histoire de l'herboristerie en France de 1803 à aujourd'hui, donc thèse soutenue en 2016. Donc, en fait, la FFEH a lancé une vaste étude pour comprendre les enjeux de l'herboristerie contemporaine. Un des aspects de cette étude consistait à comprendre quelle est la réalité des professionnels actuels de l'herboristerie et quelles sont leurs attentes sur leur métier. Donc, cette étude s'est basée notamment sur l'analyse d'un questionnaire en ligne qui a obtenu 668 réponses et sur 30 entretiens de type semi-directif d'environ une heure auprès de professionnels dont le profil était caractéristique. Et ces données ont été analysées par moi-même et par Yves Gourvenec, qui est donc ingénieur en formation, et préfigure un autre travail lancé également par la Fédération, qui est la mise en place d'un référentiel métier sous la direction de Marc Robichon et qui sera présenté à la prochaine table ronde. Et il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de cette étude, évidemment, mais il y a un aspect qui me semble intéressant sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu, qui est que l'herboriste joue, et je vais vraiment répondre un peu à ce qu'a dit Aline, en fait, faire écho à ce qu'a dit Aline, avec une vision un peu plus positive, un peu moins, je vous dis, non, ça part pas totalement dans tous les sens, il y a une certaine cohérence aujourd'hui dans le milieu herboristique.
Ça peut vous dire que ça pouvait disparaître en fonction des formations.
Voilà, c'est vrai. Et donc l'herboriste aujourd'hui, c'est également un modulateur et un modérateur. Modulateur parce que il se contente pas de donner des plantes, en réalité il est énormément dans l'échange, et l'échange c'est un élément fondamental, et il fait de l'éducation en réalité. Il éduque à l'hygiène, il éduque à l'alimentation, il éduque à l'environnement avec une importance donnée sur la cueillette, etc., etc. Il éduque à la qualité, je pense notamment aux paysans herboristes qui font très attention à l'origine de leurs produits, et il éduque au patrimoine. L'herboristerie, c'est également un objet de patrimoine. La deuxième chose, c'est qu'il ne se contente pas de faire des conseils et de donner des produits, c'est plus complexe que ça, il les contextualise, il redéfinit les demandes. Et ça, c'est notamment important du fait de la circulation d'informations sur Internet. Je vous donne un exemple concret, une herboriste qui me raconte qu'un jour arrive dans son herboristerie une jeune femme qui lui demande un bâton de réglisse. Et elle lui dit, mais pourquoi ? Avant de lui donner la réglisse, elle lui dit pourquoi ?
Parce que j'ai sommeil, donc la réglisse, on m'a dit que ça faisait dormir.
Absolument pas, mais... Et elle lui dit, bah, j'ai vu sur Internet que la réglisse était très bon pour les dents et j'ai un bébé qui fait ses dents. Et l'herboriste lui dit, oh là là, non, c'est un bâton de guimauve qu'il vous faut, pas de la réglisse. Et la troisième chose, c'est médiateur. Il renvoie vers d'autres de corps. Il a la capacité de renvoyer. Alors, ceux qui font un autodiagnostic, les gens, c'est exactement ce que disait Aline. C'est-à-dire, ils ont regardé sur Internet, ils ont décidé ce qu'ils avaient. Et là, l'herboriste va leur dire, là, il y a besoin d'un vrai diagnostic. Il y a l'accompagnement de la violence de la biomédecine. Alors, par exemple, je vous donne un exemple d'une dame. Sa fille, elle est autiste. Fortement autisme déclaré. Et c'est horrible pour elle. Tout tourne autour de sa fille. Sa fille est suivie par un médecin. Et en fait, elle va avoir besoin, elle explique qu'elle a besoin des plantes pour faire quelque chose. C'est-à-dire, l'herboristerie permet aux gens d'agir eux-mêmes sur la santé. Donc, une sorte, et elle va accompagner par les plantes le soin donné par le médecin. Mais le médecin est bien sûr au courant qu'elle utilise les plantes. Et puis, il y a un dernier aspect qui est en fait secondaire, mais qui me semble intéressant quand même. C'est qu'une partie mineure de la population qui va voir les herboristes, je dis bien marginale, sont des gens en rupture avec la biomédecine. C'est des gens qui ne veulent pas de médicaments, pas de médecins. Et là, l'herboriste, parce qu'il n'est ni médecin ni pharmacien, va pouvoir leur dire, là, il faut aller voir le médecin. Exemple concret, un homme, une personne âgée, va voir un herboriste, lui dit, j'ai fait une attaque. Mon médecin m'a donné des médicaments pour le cœur. Je ne veux pas prendre de médicaments. Donnez-moi quelque chose de naturel. Et lui va lui dire, votre médicament, il va vous soigner. Il va éviter que vous mouriez si vous refaites une attaque. Moi, mes plantes, elles pourront pas. Elles n'ont pas ce pouvoir-là. Donc, prenez vos médicaments. Les plantes, ça viendra en complément. Et tout ça pour dire deux conclusions.
Et le gars a arrêté d'être témoin de Jéhovah, donc depuis jour-là.
Et du moins, il s'est dit que bon, en tout cas, il a dit à l'herboriste qu'il allait prendre ses médicaments. Deux choses pour finir. Pour que l'herboriste puisse jouer ce rôle de modulateur et de médiateur, il a besoin d'une indépendance identitaire. Il a besoin de n'être pas sous la férule, on va dire, d'autre chose. Il a besoin, c'est parce qu'il n'est pas médecin et qu'il n'est pas pharmacien et parce que sa légitimité repose sur un univers de sens qui n'est pas celui de la biomédecine. Et la deuxième chose, c'est que pour pouvoir jouer ce rôle, il a besoin d'être reconnu. Le problème, c'est que l'absence de reconnaissance crée des situations où il ne peut pas renvoyer. Et notamment, par exemple, parce que les clients ne vont pas dire à leur médecin qu'ils prennent des plantes par peur de la réaction du médecin. Ils vont dire, ah non, je vais pas lui dire parce qu'il va pas aimer, je dois pas faire ça. Et là, il y a un danger. Là, il y a quelque chose, il y a un vrai problème. Il faut absolument, cette collaboration existe, cette réalité existe, il faut qu'elle soit reconnue pour qu'elle puisse fonctionner, en fait. Voilà.
Merci beaucoup, Ida. Bon, c'est intéressant aussi, parce que là, effectivement, c'était tout à fait complémentaire, toutes les deux. On va poursuivre maintenant avec un deuxième temps. Alors, on va avoir, soit vous restez, je regarde combien il y a de place. Thierry, allez, Thierry, tu montes. Pierre Champy aussi, s'il vous plaît. Oui, on peut se faire, oui, tout à fait, ils vont quand même monter, comme ça, ce sera fait. Voilà, c'est bon. Ils répondront pas cette fois-ci. Alors, est-ce que vous avez sur ce premier module déjà questionnement? Voilà, on reste déjà sur ce qui a été dit. Est-ce que vous souhaitez donc intervenir? 15h08, oui, c'est formidable. On vous passe le micro. Allez.
Bonjour. Patrick Garnon, France Agrimaire. Moi, je voulais juste réagir sur un des éléments qui a été dit par plusieurs intervenants, c'est les problèmes de pression sur la ressource. Alors, je suis désolé, mais de mon point de vue, en tout cas pour ce qui est des plantes médicinales, c'est un fantasme. La réalité, c'est qu'il y a de la pression sur la ressource réelle depuis une trentaine d'années dans deux domaines. Le domaine cosmétique, parce qu'il y a une demande soudaine et qui ne tient pas compte de la réalité botanique et de la nature qui s'exprime, avec des prédations au sens strict, et on a des cas très précis, notamment en Outre-mer, mais y compris en métropole, et d'autre part, dans l'autre sens, l'homéopathie, où là, on a une multiplicité de plantes utilisées, mais y compris des plantes qui sont très rares, et où l'admission de ces plantes en homéopathie ne tient absolument pas compte de la réalité de la ressource. Donc là, on est sur des toutes petites échelles, mais il y a eu des problèmes effectifs. Et je termine en disant que la production agricole, en intégrant les cueilleurs, depuis longtemps en France, avec le monde de l'environnement, a intégré ces questions-là. À la fois, les conservateurs botaniques font un travail de reconnaissance et de connaissance du milieu avec des, disons, tout un tas de mesures de précaution, je ne rentre pas dans les détails, mais qui sont opérationnelles et effectives. Et de l'autre, les producteurs, qu'ils soient cueilleurs ou agriculteurs, justement, gèrent ce rapport entre la cueillette stricte, la cueillette aménagée et la culture en fonction de la demande et de l'état de la ressource. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis qu'il y a tout un système qui permet de dire que, en réalité, sauf les deux cas que j'ai évoqués, cette préoccupation exprimée ne correspond pas à la réalité.
Aline, peut-être sur ce thème.
Alors, non, je ne suis pas d'accord. D'abord, on n'a pas parlé de l'aromathérapie, à moins que vous le considériez comme un cosmétique. On a quand même disparition du Chantal Blanc, du Bois de Rose. On a des stations entières. Non, ok. Mais le problème, c'est qu'on est sur une phytothérapie globalisée et qu'on ne se contente pas de la France. Et tout ce qu'on achète, ça ne vient pas que de France. Alors moi, j'espère demain qu'on consommera plus de produits français qui seront produits en respect de l'environnement.
80% mais, qui viennent de l'étranger.
Voilà, je veux dire, la médecine ayurvédique, la ressource est menacée sur 80% des plantes. Je pense qu'il faut quand même le dire, au moins signaler qu'ailleurs qu'en France, ce n'est pas tout à fait la même problématique. Et que la pression qui est en train de monter, en particulier sur l'aromathérapie, sur la distillation, est un vrai problème à mon avis. Et il va falloir quand même qu'on se pose la question de savoir s'il faut continuer à faire du super size en phytothérapie. Et puis, on a quand même, enfin, nous, on a beaucoup travaillé sur la pharmacopée tibétaine. La mondialisation des médecines traditionnelles est quand même une catastrophe pour la ressource. On a travaillé sur des terrains où on a fait les constats nous-mêmes. En l'espace de 2 ans, il n'y a plus une seule plante médicinale sur un haut plateau tibétain parce que c'est vendu dans le monde entier. Donc, ok pour la France, tant mieux. Mais je ne sais pas combien de temps on sera protégé d'un mouvement global qui est quand même gravissime.
Oui, juste donc pour lever, enfin, apporter de la nuance à ce que j'ai dit, c'est que, enfin, effectivement, si vous avez entendu, toutes les plantes médicinales sont menacées par nos comportements. Effectivement, là, c'est du fantasme. Par contre, quand même, pour amener plus de complexité, j'essaie d'imager. Donc, le propos en fait était de dire que plus de gens formés sur notre territoire, avec plus de conscience de la problématique de cette mondialisation de la phytothérapie, va pouvoir a priori permettre un conseil qui va être réorienté aussi vers notre ressource, avec plus de préservation de notre ressource et aussi une meilleure connaissance, et donc utiliser des plantes locales qui vont être cueillies, enfin, dont on maîtrise, enfin, je veux dire, je confère Mélilotus ce matin, vraiment. Ces producteurs qui sont de la graine jusqu'à la vente peuvent parler de leur matière première et d'où elles viennent, comment elles ont été travaillées, et c'est réorienté. Aujourd'hui, 80% des plantes en France, elles sont consommées, c'est de l'importation. Et même si on dit qu'il y a encore la place, bien sûr, pour produire des plantes, je vais un exemple, par exemple, parce que c'est pas juste la disparition. C'est l'exemple du maca, par exemple. Moi, j'ai vécu au Pérou pendant un certain temps. L'exemple de la maca, où il y a eu un boom dans toutes les ventes par correspondance, vente en ligne, etc., d'une espèce de panacée qui est une plante très puissante, très efficace, mais peut-être parfois surconsommée pour certaines, dans certains cas, a provoqué, en fait, si vous voulez, des conversions chez certains producteurs au Pérou sur des zones d'altitude pour refaire de la maca de façon intensive, à grand renfort de pesticides, qui sont d'ailleurs des produits qui sont aujourd'hui interdits en Europe et qu'on revend en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est, qui sont quand même notre poubelle de nos pesticides interdits en Europe. Bon. Et ça a forcé, si vous voulez, sur une pression économique, les producteurs à faire de la maca plutôt que de la patate. Et aujourd'hui, au Pérou, on a eu une perte de diversification de certains types de pommes de terre parce que des gens se sont lancés dans la maca à haute... voilà. Donc, si vous voulez, il n'y a pas juste la ressource pressurisée, il y a aussi l'impact que vont avoir nos rapports de consommation aux plantes. Un meilleur ancrage territorial fait que, normalement, on doit plus se diriger vers une phytothérapie localisée et donc aussi un levier économique pour les producteurs qui sont les garants d'une qualité. Et dans le mot qualité, je mets plein de choses. Je ne mets pas juste un taux de principe actif. Je mets tout un rapport entre l'homme et la plante et l'environnement. Donc c'est juste pour nuancer la dimension, c'est pas juste une question de disparition. Et après j'entends que il faut faire attention à pas générer des fantasmes. Et sur ça je suis d'accord avec vous.
C'est pareil pour le quinoa. Hein. Maintenant, si vous voulez, les Indiens, ils sont obligés en Bolivie d'aller acheter du quinoa sur les Nature. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Voilà. Non, mais c'est je tire à gros crème. Enfin, la bête goji, c'est pareil. Quand on a tous ces trucs-là, c'est formidable, formidable. On va tous être végétariens, tout baigne, mais derrière, il y a quand même quelques légers soucis. On y va. Ouais, je ne sais pas à quel micro. Donc,
oui, c'est moi. Bonjour.
Oui, ça y est, c'est bon.
Voilà, je me lève un peu. Guillemette Asplandi, moi, je suis pharmacien. Je travaille dans l'industrie, une big pharma. Voilà. Mais je voulais revenir, moi, sur les cases de Claire et aussi sur les formations d'Aline. Il y a un métier qui n'a pas du tout été évoqué et qui pourtant a une excellente formation sur les plantes et qui est prescripteur, ce sont les vétérinaires. Je pense que vous les associez aussi à votre travail, donc je pense que ça serait bien qu'ils nous rejoignent, parce que ils ont vraiment, moi je vois sur le terrain, quand je fais un petit peu de botanique, ils sont très forts pour moi. Alors c'est peut-être comme les pharmaciens, c'est peut-être pas le cas de tous, mais en tout cas ceux que je connais ou que je fréquente sont excellents. Il y a la phytothérapie aussi pour les animaux, pour les chevaux, et je pense que ça serait bien qu'on travaille tous ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos des cases et des métiers. Claire, vous vouliez dire quelque chose ?
Des éleveurs, je pense qu'il y a une information qui est très importante à faire passer, c'est-à-dire que les éleveurs n'ont pas le droit de produire. Un éleveur, il est aussi agriculteur et il est aussi dans un territoire. Et là, en ce moment, avec la législation, il n'a pas le droit de produire lui-même ses plantes médicinales pour donner à manger à ses animaux. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il passe, même si les vétérinaires sont compétents, en plantes médicinales, c'est un peu pareil que les paysans herboristes avec les pharmaciens et les médecins. Tant mieux, c'est vraiment un plus. Mais en premier, l'éleveur, il faut absolument qu'il puisse produire ses plantes pour soigner ses animaux, parce que c'est son autonomie et c'est sa liberté aussi. Il est libre d'avoir le droit de connaître les plantes qui peuvent pousser chez lui pour prendre soin de ses animaux. Et là, la législation est complètement inadaptée. C'est-à-dire, il y a eu une rencontre très très intéressante à Eure, justement, il y a 3 ans, où ça s'appelait Forum Plantes Libres. Comme par hasard, c'était une jeune productrice. Elle avait fait, parce que les jeunes sont beaucoup plus fragiles. Donc, on va plus facilement voir les jeunes pour les contrôler, tout ça. Et donc, Forum Plantes Libres, elle avait de l'homéopathie, des huiles essentielles et des plantes dans sa pharmacie. Elle était en production laitière, brebis laitière, et elle fait des formations au centre de formation pour adultes sur la phytothérapie vétérinaire. Donc elle est compétente. Au niveau d'un contrôle, ses subventions européennes lui sont coupées parce qu'elle a des plantes qui n'ont pas été prescrites par des vétérinaires. Donc là, grand remue-ménage, et tant mieux. Les éleveurs, les producteurs de plantes, les vétérinaires, le pharmacien Samy, tout le monde se rencontre pour faire une grande rencontre autour de la médecine vétérinaire et des plantes médicinales. Et en fait, c'est absolument indispensable que ça évolue aussi au niveau des éleveurs, de la même façon que pour les gens.
Autre... Allons-y. Ceux qui ont le micro, hein, vous débrouillez comme des grands, là. Oui, oui, ben je, oui moi, je... Non, je voilà.
Oui, je suis Jean-Paul Lescure, Association française des cueilleurs, des professionnels de la cueillette de plantes médicinales, de plantes sauvages. Je reviens sur cette histoire. Je remercie Aline et Samir d'avoir porté sur l'aspect ressources. Avec Thierry, nous avons publié récemment un article, une liste de plantes cueillies en France, plus de 700 espèces cueillies, et nous avons essayé de recueillir l'avis des cueilleurs sur cette ressource, sur l'état de cette ressource. Et pour de très nombreuses espèces, les cueilleurs s'accordent à dire que la ressource est menacée. Donc, ça veut dire qu'en termes d'action, il faut d'une part de la communication, auprès de tous les acteurs de la filière, que ce soit le public, que ce soit les industriels, les herboristes, etc. Et il faut aussi co-construire maintenant des savoirs, parce que ce sont des savoirs qui n'existent pas, ou qui, du moins, n'ont jamais été mis sur la table. Il faut co-construire des savoirs sur la gestion de la ressource. Et ça, dans la prospective, ça doit être pris en compte.
Merci à vous. Allez, on y va encore une ou deux, parce qu'il faut qu'on avance. Voilà. En même temps, mon rôle, c'est de vous frustrer moyennement. Mais pas complètement.
Oui, Loïc Bureau à nouveau. Tout à l'heure, j'ai entendu l'association qualité avec circuit court. Et ça m'a interpellé car le pharmacien, et j'ai plusieurs confrères qui l'ont évoqué ce matin, ne peuvent s'approvisionner qu'auprès d'établissements pharmaceutiques, ne peuvent pas s'approvisionner auprès d'un producteur-cueilleur. Et de ce fait, il va s'approvisionner avec un niveau de qualité où on va rechercher la microbio, les pesticides, les mycotoxines, les dérivés polycycliques aromatiques, etc. Ce qui fait que, dans ce cas-là, le pharmacien fait l'acquisition de matières premières, de plantes, à un prix beaucoup plus élevé. Il va certes pouvoir exprimer ses compétences, mais avec ce niveau de qualité et d'exigence de sécurité, n'est plus compétitif. Donc si on a des producteurs-cueilleurs, on est dans un différentiel concurrentiel avec d'un côté un prix plus faible, mais d'autre côté davantage de qualité, davantage de sécurité. Et pour illustrer ça, je vais prendre qu'un l'exemple d'une herboristerie en gros, qui a deux catalogues, un herboristerie et un autre pharmacie. La différentiel de prix entre les deux produits, et certains pourront me confirmer cet écart, il est 30%, voire 40%. Donc si le pharmacien achète déjà 30 à 40% plus élevé, c'est clair, c'est pas le même prix pour le consommateur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit accepter un niveau de qualité plus faible parce qu'il y a un circuit court, plus économique, mais moins de qualité et moins de sécurité, ou d'autres? C'est toute une problématique qui reste posée.
Qui est la même que pour le bio, hein, d'une manière générale aussi. On va retrouver ça. Et après Isabelle. Oui, d'accord, mais moi je veux bien, j'ai envie aussi que les gens s'expriment, mais on ne peut pas avoir toutes les réponses partout. Sinon, on ne s'en sort pas. Voilà.
Je vous en prie, Isabelle. C'est très court. Ce que je voudrais dire en rapport avec la protection environnementale, c'est qu'il me paraît incontournable que pour l'élaboration du statut de paysan herboriste, nous fassions un lien avec la loi biodiversité de janvier 2016 sur l'accès à la ressource. Voilà, c'est fondamental. On ne peut pas élaborer un statut de professionnel et d'accès à la ressource végétale sans tenir compte de cette problématique, quand bien même toute la ressource ne serait pas menacée actuellement. Mais elle l'est déjà de toute façon, puisque vous êtes exprimé sur ce sujet-là, et qu'en fait, il faut mieux faire de la prévention primaire que d'attendre qu'on n'ait plus rien sur la planète pour s'interroger et dire « Ah bah, au fait, ouais, tiens, maintenant, on n'a plus de ressources, quoi. » Voilà ce que je voulais dire, et donc ça me paraît crucial sur l'élaboration de la future réglementation, monsieur le sénateur Labbé.
Et ce n'est jamais inutile de le rappeler, puisqu'on a transformé la Terre en casino, donc merveilleusement, et qu'on est sur une économie de prédation délicieuse, avec une biodiversité qui se casse merveilleusement la gueule. Bon, donc, effectivement, ça c'est le contexte général, d'où la fameuse loi de 2016. Après, moi j'ai fait un petit papier sur le fait que les sites classés, on allait les raboter, que le Conseil national de la protection de la nature, on va aussi donc la raboter, etc. et tout, mais on vous dira que l'on fait de l'écologie, je vous en prie.
En complément de réponse à Loïc Bureau, j'ai proposé lors de ma première audition au Sénat l'année dernière que justement soit instauré de manière mutualisée un organisme de contrôle pour les paysans herboristes qui viennent les contrôler deux fois par an, puisqu'aujourd'hui, j'en discutais il y a trois ans avec Thierry, faire 900 euros d'analyse sur 3 kilos de prêles, c'est pas viable. Par contre, qu'il y ait un organisme national de contrôle mutualisé pour l'ensemble des paysans herboristes qui viennent les contrôler une fois par an, une fois tous les deux ans pour certifier qu'ils travaillent bien, leur process de séchage est correct pour justement redonner l'autorisation aux pharmaciens d'acheter des plantes de qualité en circuit court.
Ok, une petite dernière. Alors, monsieur et madame, deux, c'est bon. Je ne vous frustre pas, j'ai compris.
J'avais envie de réagir. Denis ?
Ouais, si tu me fais court. Pardon, excuse-moi Thierry. Ah oui, tu es déjà là. Ah oui, c'est vrai que tu es déjà là.
Oui, la structure de contrôle existe, puisqu'elle fait partie de l'Institut technique des plantes aromatiques et médicinales, l'ITEPMAI, qui est à Chemillé, et qui est habilité à contrôler toutes les plantes médicinales. et un coût raisonnable.
Moi, ce que je voulais juste témoigner, c'est que le syndicat simple a été créé en 1982, donc ça fait quelques années, et que depuis toutes ces années, chaque producteur est contrôlé et contrôle ses pairs, et à chaque fois, on regarde le séchage, on regarde le séchoir, on regarde la qualité des plantes, et ce contrôle, il existe déjà. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas des analyses... Voilà. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention quand on parle de qualité. Il y a plusieurs manières d'imaginer, d'aborder la qualité. On a vu que même sur des diapositives, ça peut se voir d'une manière assez évidente. Il peut y avoir des plantes qui peuvent avoir une grande qualité pharmaceutique, mais qui, quand on les regarde d'une autre manière, n'ont pas forcément toujours la même qualité. Donc je crois qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, mais je ne crois pas vraiment au lissage comme ça. Je pense qu'il faut discuter. Non, parce que je voulais pas laisser entendre, peut-être j'ai mal compris les choses, c'est qu'aujourd'hui les producteurs seraient hors contrôle, et ça c'est pas vrai et c'est pas le cas. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, et je pense qu'on peut se retrouver facilement dans la même situation. Aujourd'hui, on va dans une société qui va vers l'hypercontrôle, où effectivement on a tous le droit de faire des choses, on nous dit comment les faire, mais c'est tellement compliqué qu'on ne peut plus les faire. Et il faut, je crois, résister ensemble et réfléchir ensemble comment on ne se laisse pas entraîner dans un système qui nous empêche d'exister, quoi. Officiellement, on peut, sauf que dans les faits, ça ne marche plus, quoi.
Bon, donc les demandes sont effectivement quand même très très bien établies. Mademoiselle, on vous passe le micro tout de suite. En tout cas, merci d'avoir rappelé aussi que Chemillé existait, donc en limite. C'est Vendée ou juste à côté de la Vendée, si on peut.
Maine-et-Loire.
Je savais que j'allais me faire engueuler, c'est bien là. Donc, c'est normal, il n'y a pas de colle. Tu vois, c'est pour ça que c'est tout plat là. C'est là. Bon. Maine-et-Loire, bien sûr, Chemillé, Maine-et-Loire. Je vous en prie.
Alors, Emmanuelle Guilbaudot, moi je suis fondatrice de Terra Herba. J'ai été formée par l'ARH, Association pour le Renouveau de l'Herboristerie en France, et j'ai continué ma formation avec Caroline Gagnon sur l'école Flora Medicina. Donc je constate en effet qu'il y a de plus en plus d'herboristes thérapeutes, et c'est vrai que dans le débat, là, j'ai du mal à trouver ma place. Enfin, en tout cas, je la trouve, parce que j'ai légitimement ma place dans ce débat-là, mais je pense que c'est important. Et j'ai entendu, je suis contente de votre témoignage, Claire, sur on tisse des liens, on est dans une communauté de proximité. Donc, en effet, on est en train de se former avec une formation canadienne. Mais on peut aussi vous apporter, nous, les herboristes thérapeutes, une autre manière d'envisager les choses, peut-être aussi avec, justement, cette belle énergie du Québec. Et qu'il faut tisser des liens, et j'ai entendu les groupes de professionnels, des groupes de pairs, et moi j'ai vraiment à cœur qu'on puisse travailler avec les médecins, avec les pharmaciens, avec les paysans herboristes, et que c'est comme ça qu'on pourra avancer. C'est vraiment dans cette complémentarité de compétences et de savoir-faire. Donc je voulais vraiment témoigner, parce que on était plusieurs, il y a plusieurs personnes qui me disent je suis herboriste thérapeute depuis longtemps, je vais plus au congrès parce que j'ai du mal à trouver ma place. Et voilà, je pense que c'est une place qu'on vous demande.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, une petite dernière. Une petite dernière pour monsieur. Je prendrai peut-être après, parce que là on explose. Enfin, ça dépend si vous avez envie de dormir ici tous ce soir. Il n'y a aucun problème, hein, mais je vous en prie, monsieur.
Bonjour à tous. Donc Christophe Ripoll, je suis président de Phytolia. Phytolia, c'est une association interprofessionnelle qui justement est en train de structurer des choses autour de développer la filière française des plantes santé, beauté, bien-être. Et moi, je voulais quand même refaire un point. On a beaucoup, on parle de circuit court, de circuit long, on parle de qualité. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Aujourd'hui, on a des problématiques pour se sourcer sur des plantes classiques françaises parce qu'elles ne sont pas produites en France. Alors, il y a de la place pour les circuits courts, mais il y a aussi des demandes pour des quantités un peu plus importantes de plantes qu'on ne trouve pas. Donc, on va aller en effet acheter ces plantes ailleurs en Europe ou parfois ailleurs dans le monde. Et c'est en ça où la notion du 80% de plantes importées, on ne parle pas que de plantes exotiques, on parle aussi de plantes qu'on pourrait cultiver en France. Et ça, c'est aussi arriver à mettre en place une économie qui permet à faire qu'il y ait de la conversion des producteurs sur ces cultures-là. Et les deux circuits ne sont pas antinomiques, au contraire. Nous, au sein de l'association, on retrouve en fait, on est avant tout un tissu, certes, d'industriel, mais beaucoup de PME, avec ces problématiques de trouver les plantes, avec ces problématiques de qualité aussi, hein, c'est-à-dire que c'est pareil, on produit, je suis également producteur d'extraits, on a des extraits qu'on va produire des fois à la tonne, mais on a encore des extraits où on produit 20 kilos, on a la même problématique en termes d'analyse, c'est qu'aujourd'hui, les analyses vont nous coûter aussi 1000 euros, et on va se retrouver en compétition avec des entreprises externes à la France qui vont avoir des prix beaucoup plus bas que les nôtres, et qui vont faire qu'on va arriver, on va pas arriver en fait à se positionner pour amener des plantes françaises, des extraits français qui soient compétitifs sur le marché. Donc c'est pour ça que le développement de la filière passe aussi par le fait qu'on arrive à avoir une synergie entre les circuits courts et les circuits longs. La demande de plantes, on parlait notamment de nutrition animale. Souvent en nutrition animale, le vrai frein, c'est il faut souvent des plantes en quantité un peu plus importante. Parce que les doses que vont ingérer les animaux sont importantes. Aujourd'hui, on ne trouve pas ces plantes sur le marché français. Donc ça, c'est aussi un des points qu'il faut avoir en tête dans la réflexion qu'on doit avoir sur ce métier d'herboriste et sur les débouchés. Il faut prendre en compte aussi cette notion de demande de circuit un peu plus long. Alors quand je dis long, on parle quand même encore une fois de PME, hein, qui sont des PME de transformation, qui vont faire de l'extrait, qui vont faire du façonnage de produits finis. Donc il faut vraiment essayer d'avoir en tête ces deux, avec des situations et des tailles certes un peu différentes, mais des problématiques qui sont identiques.
Samy.
Alors, je me permets d'être cash. Je pense que quand même une des dimensions, enfin pour travailler un peu avec les producteurs et pour bosser un peu sur la question de combien on achète tel et tel kilo de plantes. D'ailleurs, ça ramène aussi un peu en élément de réponse à Loïc Bureau. Je suis pas sûr d'avoir compris si dans votre témoignage vous dites que les plantes pharmaceutiques sont plus chères que les plantes produites de circuit court. C'est ça que vous dites? Oui. 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 Alors du coup, j'apporte un témoignage personnel qui est finalement, je pense, une dimension éthique de comment on doit se positionner dans l'avenir de l'herboristerie. C'est que aujourd'hui, moi, je peux trouver du kilo de thym ou du kilo de certaines plantes à des prix qui défie toute concurrence, y compris qualité pharmaceutique, en tout cas qui défie la concurrence de si je m'adresse à quelqu'un qui fait de la cueillette manuelle. Donc s'il y a un problème de ressources disponibles sur notre territoire, c'est aussi que les transformateurs ne sont pas prêts à payer les producteurs, les cueilleurs, décemment, en rapport avec le niveau de vie de notre pays et en rapport avec le coût du travail de notre pays, qui est le support de notre modèle social. Donc si la question est de créer une phytothérapie qui siphonne les ressources à l'extérieur du territoire français ou européen, produite par des gens qui sont mal payés, produite par des gens qui n'ont pas l'âge de travailler, produite dans des conditions où on utilise des pesticides avec aucune gestion du risque lors des épandages et compagnie, alors on tombe dans une grosse absurdité. Exemple de notamment certains magazines qui vendent, on a cité le boldo ce matin, qui vendent du boldo à fond les balles, qui est quand même une plante endémique du Chili. Alors j'ai passé un peu de temps au Chili sur la question des épandages sur les monocultures boldo, vigne et compagnie. Je vous assure que vous y amènerez pas vos enfants. Donc on rentre, boldo, plante étant utilisée comme dans le but de purifier, de dépurer l'organisme. Donc attention à ne pas rentrer dans un truc complètement absurde et dans le serpent qui se mord la queue, à faire venir des plantes de l'extérieur, travailler de manière irrespectueuse pour l'environnement parce qu'on n'est pas sur les mêmes chartes, pour se nettoyer nous les êtres occidentaux, alors qu'on a aussi des plantes locales, mais pour ça, pour utiliser les plantes locales de manière correcte, il faut payer les gens correctement. Il y a cette dimension-là qui est importante.
Un bon coup d'ubérisation chez l'herboriste polonais, et tout ira bien demain. Et c'est déjà le cas, oui, d'accord, c'est ça, c'est un peu ça le problème. Effectivement, 3 euros de l'heure pour la cueillette, c'est pas terrible. Merci beaucoup. Pardonnez-moi parce que l'alarmance est infinie, mais enfin, il faut quand même qu'on avance un tout petit peu. Donc, un grand merci à vous. Vous allez rester là. Allez, hop, restez là, vous y êtes. Oui, enfin, sauf si vous avez un rendez-vous, mais comme vous allez revenir tout à l'heure, de toute façon, me semble-t-il. Deuxième temps, quel statut des plantes pour l'herboristerie? On a vu quelle place de l'herboristerie en lien avec les professions de santé, on a un peu débordé, c'est pas grave. Quel statut des plantes pour pour l'herboristerie, Thierry Thévenin à nos côtés, Pierre Champy de l'autre. Oui, voilà, Pierre, vous êtes là. Un producteur-cueilleur donc de plantes médicinales, porte-parole du syndicat des Simples, homme aussi donc du Limousin, je le disais, et qui est aussi auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Alors, on y va. Est-ce que tu veux partir sur les listes à libérer, sur les allégations, voilà. Demain, quelle serait, on va dire, un peu l'herboristerie idéale avec tout le petit monde que l'on a dépeint?
Déjà, je suis vraiment très heureux d'être ici, je veux le dire, parce que vraiment, il y a une espèce d'intelligence collective assez incroyable. Donc, c'est presque gênant, parce qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été dites, qui ont été abordées, qu'on a déjà répondu à beaucoup de questions.
Oui, mais la pédagogie, passons par la répétition, et avec tes mots à toi, ce sera aussi bien.
Donc, vous avez compris qu'effectivement, aujourd'hui, le statut des plantes est divisé en silos. Il y a quelqu'un qui a parlé de silos. Je trouve que l'image est très juste. Hein, et où la même plante, suivant sa destination, ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qu'on raconte au moment où on la vend? Parce que c'est vrai que tant qu'on ne la vend pas, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on est en relation directe avec le consommateur, il y a effectivement des listes, des réglementations. La forme sous laquelle on la présente, ça va entraîner ainsi. Bon, tout le monde, je pense, a compris ça. Donc, demain, je ne sais pas ce que c'est l'idéal, mais en tout cas c'est vrai qu'on a ce problème où la plante, ça a été dit plusieurs fois, est un être multiforme, multiculturel, qui est difficile à attraper, à enfermer dans des cases, et on a affaire à quelque chose. La complexité, ça va être comment. Et c'est un paradigme, les silos réglementaires, et réfléchir en termes de silos, en termes de cases qui soient étanches avec chacun sa place. Ça c'est chez moi, ça c'est chez toi, et tu viens pas chez moi et je te marche pas sur les pieds. C'est un vrai paradigme aujourd'hui dans le monde de la santé et même dans le monde économique en général. Et la plante, elle nous invite peut-être à inventer autre chose. Alors c'est compliqué, hein, sortir et changer de paradigme, c'est peut-être compliqué. Mais la chance qu'on a, je trouve, avec la plante, c'est peut-être justement de sortir de cette idée qu'on serait une communauté d'individualisme, de concurrence, de gens qui sont toujours un peu les ennemis ou les dangers les uns des autres, et il faut arriver à inventer autre chose. Donc je me réjouis de voir vraiment tout le monde réuni aujourd'hui, des gens qui sont de cultures très très différentes. Ça fait des fois des images un peu choc, des choses un peu frontales.
C'est pas de la vie, hein, c'est tout. Donc.
Ouais. Mais voilà, pour moi, l'idéal, c'est ça, c'est d'essayer de profiter. C'est vraiment une occasion. Hein, ça a été le mot qui a été employé plusieurs fois. Les plantes médicinales et l'herboristerie sont peut-être une occasion d'inventer quelque chose d'assez novateur et qui peut-être d'ailleurs même inspirer d'autres pans de notre société, d'autres pans de notre économie. Parce que là, on a quelque chose qui n'est pas inépuisable, qui est fragile, parce que même si c'est vrai que je peux être d'accord avec toi, Patrick, quand tu dis que peut-être la production n'est pas source d'inquiétude pour beaucoup de ressources, en tout cas, on est souvent juste la goutte d'eau qui font déborder le vase quand on est des cueilleurs. Il y a aujourd'hui, moi, dans ma propre région, ça fait 30 ans que j'y cueille, je ne pourrais pas cueillir ce que j'ai cueilli il y a 30 ans, parce que il y a l'urbanisation, même en Creuse, hein, les villages s'urbanisent, enfin, il y a un modèle urbain qui se développe. Il y a l'industrialisation de l'agriculture, des infrastructures, et tout ça, c'est extrêmement dévoreur de plantes médicinales. Aujourd'hui, moi, j'habite dans un bocage, il y a vraiment des kilomètres de haies qui partent sous forme de pellets dans des chaudières pour des gens qui pensent se chauffer d'une manière écologique. Il y a des sociétés qui démarchent et qui vont voir les petites mémées à la retraite qui ont 500 euros par mois en disant ça, c'est à vous le taillis là-bas, c'est à vous la haie là-bas, et qui leur donnent 1 euro le mètre cube. Donc c'est quoi une haie? C'est de l'aubépine, c'est du frêne, c'est du lierre terrestre, c'est du bugle rampant, c'est une foule, c'est une pharmacie à ciel ouvert. Hein. Donc voilà, je pense que c'est ça, l'herboriste idéal, c'est celui qui va questionner, c'est très, très large, c'est très complexe, on ne sait pas par quelle boule l'attraper. Mais donc, je ne sais pas, est-ce que c'est imaginable de pour une fois sortir de cette logique de silo, de concurrence et de chasse gardée économique, et aussi de sortir de ces environnements culturels forts? Quand on parle de qualité, c'est quoi la qualité? Je suis à peu près sûr que l'établissement pharmaceutique qui fournit les herboristeries et les pharmacies, les lots de plantes, ils viennent du même endroit. C'est les mêmes cueilleurs qui les ont cueillis à l'autre bout de la planète, ou en France d'ailleurs, parce qu'on produit aussi pour la pharmacie en France, des fois d'une manière très mécanisée, ça permet d'abaisser les coûts de production. Donc qu'est-ce qui fait le surcoût de 40%? C'est de la paperasse. C'est la libération des produits, c'est des process de validation pour dire cette plante-là a une qualité pharmaceutique, c'est avant tout de la paperasse. Alors c'est un modèle, hein, je ne suis pas là pour défoncer spécialement ce modèle-là, mais il faut, je pense, arriver à trouver une voie médiane et raisonnable. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, moi c'est ce que je retiens pour l'instant de cette journée, c'est que tout le monde est dans l'égalité, personne n'est satisfait de la situation et il faut vraiment qu'on trouve une solution.
Statut des plantes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait effectivement libérer? On va pas faire un catalogue, mais enfin, on entend bien que sur les 148 plantes aujourd'hui, enfin, il faudrait qu'on soit autour de 300, me semble-t-il.
Moi, je trouve peut-être que déjà au niveau de plantes en nature, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'extrait, on ne parle pas de molécules isolées, on va parler de tisane, on va parler d'eau florale, on va parler même d'huile essentielle. Je pense qu'il est peut-être intéressant d'imaginer une liste, alors soit comme l'ont fait les Espagnols, une liste négative, parce que ça fait quand même quelques siècles qu'on connaît les plantes dangereuses. D'ailleurs, les plantes qui posent des problèmes, qui ont été utilisées en herboristerie il y a 600 ou 700 ans ou 1000 ans, moi je pense à la grande ciguë, je pense à des plantes qui ont été utilisées en herboristerie. Ça fait très longtemps qu'on les a éloignées, qu'elles ont été écartées, parce qu'on n'est pas stupide. Et il y a encore aujourd'hui, on a eu avant-hier quelqu'un qui s'est empoisonné avec de l'onde safranée. Je veux dire, ça fait des siècles qu'on sait que l'onde safranée est dangereuse. Donc peut-être il y a la piste d'imaginer une liste négative. On sait aujourd'hui les plantes qui posent problème et celles-là, on les sort. C'est un peu l'idée de la liste B finalement. Mais peut-être on peut imaginer ça. Ou une liste positive, parce qu'il est facile aujourd'hui, on a quand même des outils de statistiques et de contrôle et de regarder ce que font les gens, comme on n'en a jamais eu. Donc on sait aujourd'hui quelles plantes sont consommées. Donc on peut imaginer aussi bien une liste positive. Peut-être la DGCRF peut proposer un décret infusion. Il y a eu un décret plante pour les compléments alimentaires. On peut peut-être imaginer un décret plante à infusion. On va lister. Je pense qu'il y a des pistes comme ça. Voilà.
Et sur les allégations, ça aussi c'est quand même.
Alors c'est vrai qu'on ne peut pas séparer effectivement les plantes des allégations. Ça c'est incontournable, sauf à être complètement hypocrite. Donc moi j'ai jamais voulu l'être. Et c'est vrai que voilà, dès que j'ai commencé à faire un marché à Clermont-Ferrand là il y a 25 ans, très vite j'ai été confronté à ça. En plus je suis arrivé l'année où l'herboriste elle avait largement dépassé l'âge de la retraite, mais a arrêté son métier d'herboriste à Clermont. Donc je suis arrivé sans le savoir. À reprendre un créneau, donc même si on veut pas, je sais pas si c'est toi Aline qui a parlé de ça, mais on va nous faire dépasser les limites, ça c'est clair. On va nous interroger sur les vertus des plantes et on peut pas faire autrement. Et en plus, pour moi, c'est quelque chose, alors là je vais parler un peu personnellement, mais je sais que je suis pas le seul comme ça, pour moi quelque chose qui nous appartient, qui est notre patrimoine culturel. Même si mes ancêtres m'ont pas transmis grand chose parce que mes parents étaient de la génération Formica ou la génération je sais pas quoi, mais enfin en tout cas ceux qui ont rompu avec ça, en tout cas les autres avant m'ont transmis des choses. Donc je fais partie de ces gens et on est très nombreux comme ça pour qui c'est quelque chose qui appartient à notre patrimoine culturel et qui est légitime et qu'on peut transmettre. Et il n'y a pas besoin des choses très bêtes. On peut faire déjà beaucoup de choses avec une plante. Là, j'ai employé souvent cet exemple, hein, mais la feuille de ronce qui soigne une angine, c'est pas forcément un truc qui va amener aux urgences comme on le fait aujourd'hui. Enfin, il y a un gâchis monumental de l'intelligence et de la médecine pour de la bobologie, quoi. Donc soigner une angine, un début d'angine avec une tisane de ronce, aujourd'hui c'est pas possible. Et ça, évidemment, les allégations. Il faut aussi, alors, au niveau du syndicat simple, et de la Fédération des paysans herboristes, on est en ce moment en train de faire un travail de collecte de ces allégations qui sont proposées et qui sont les informations que les producteurs donnent à leurs clients. On va croiser ça avec on veut travailler avec des gens comme Pierre Champy qui va parler tout à l'heure. On va travailler avec des médecins comme avec Aline, avec des gens comme ça pour essayer de faire un peu de ménage là-dedans et pour établir un espèce de corpus raisonnable et sûr. Et ça, on espère bien que les pouvoirs publics auront la sagesse une fois qu'il sera construit intelligemment et qu'il proposera quelque chose qui ne présente pas de danger pour le public, que ça soit validé et que ça soit accepté. Et que quand les producteurs ou les herboristes de comptoir ou tous les gens qui veulent pratiquer de l'herboriste en France puissent aller puiser dans ce corpus, ils ne soient pas considérés comme des gens dangereux, comme des pertes de chance et qu'ils puissent avoir aussi eux-mêmes un peu une sécurité de savoir où aller. Aujourd'hui, ça existe déjà. Tout le monde va sur Internet. Il y a une personne qui est médecin qui a fait sa thèse d'exercice à Lyon sur les Français et Internet vis-à-vis de la santé. 83% des internautes sont des professionnels de santé. C'est les médecins et les pharmaciens qui vont d'abord sur Internet pour se renseigner, savoir les propriétés des plantes. Donc voilà, les choses existent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un espace légal En fait, c'est juste ça que j'ai envie de dire, ce statut, c'est de légaliser, essayer de trouver quelque chose de raisonnable et de légaliser.
Alors, on va se tourner donc justement vers un scientifique, Pierre Champy, avec nous, grand merci, professeur de pharmacognosie à l'université donc, de Paris-Sud, donc étude de la chimie, des substances, des effets, enfin, et non, je ne sais plus. Donc, le regard aussi donc, du pharmacien, ça nous intéresse bien. Aujourd'hui, alors, en parlant des limites actuelles et puis aussi donc, des possibles, qu'est-ce que l'on pourrait débloquer, on va dire, pour à la fois donc, satisfaire le patient, le client, appelez-le comme vous voulez, qui a une demande donc, extrêmement forte de produits naturels pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe, et aussi ce besoin de sécurité qui est derrière.
Bien, merci Joël Labbé d'avoir organisé cette mission, et ce colloque, enfin, c'est bien de tous se rencontrer et de pouvoir discuter. J'avais prévu une présentation assez formelle avec trop de diapos. Je vais du coup l'utiliser en support, mais sans forcément tout présenter. Donc, les produits qui sont délivrés par l'herboriste, notamment l'herboriste de comptoir, sont divers et la multiplicité des statuts et le non-recouvrement des statuts a été déjà largement évoqué. Donc, la situation est effectivement assez complexe. Donc, on est quand même principalement pour l'herboriste sur de l'aliment. Et ensuite, sur d'autres classes de produits, qui sont des produits plutôt de consommation courante, qui vont être éventuellement ingérés, que ce soit des produits artisanaux ou manufacturés. Alors, de manière intéressante, ces produits ne peuvent pas porter d'indications thérapeutiques, hein, mais des allégations, à l'exception des dispositifs médicaux à base de plantes, qui, eux, peuvent porter une indication thérapeutique qui n'a pas besoin d'être démontrée. Donc, on est vraiment dans un non-sens. Donc, les statuts intermédiaires de produits sont effectivement intéressants, mais très difficilement envisageables, vu la configuration réglementaire au niveau européen. Alors, en l'occurrence, les plantes qui sont considérées comme médicinales sont donc des plantes inscrites à la pharmacopée française, ça a déjà été évoqué. Médicinales, ça veut dire que ce sont des plantes dont on entend qu'elles ont un caractère de médicament, donc elles ont des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et animales. Donc, cette notion de prévention des pathologies qu'on attribue à beaucoup de plantes de l'herboristerie peut nous renvoyer vers ce côté médicamenteux. Donc, un premier écueil potentiel par rapport à la reconnaissance de l'herboristerie. Et d'autre part, un médicament peut également modifier des fonctions organiques. Et c'est également l'objet de pas mal de plantes de l'herboristerie. Donc, on est très facilement, pour des produits d'herboristerie, manufacturés ou non, dans des médicaments par fonction ou par présentation. Alors, la liste des plantes médicinales est divisée en deux parties, hein, ce qui a été dit. Il faudrait peut-être réviser cette manière de se représenter les plantes considérées comme médicinales. La liste A, c'est les plantes médicinales utilisées traditionnellement, mais ça recouvre des plantes ultra toxiques, genre le colchique, des solanacées, atropines, etc. Des plantes utilisées en homéopathie de manière traditionnelle. Donc ça veut dire qu'une ouverture du monopole, ça ne peut pas être une ouverture à l'ensemble de la liste A. C'est un non-sens. C'est vraiment un retour en arrière dans la sécurisation des usages d'une manière générale. Pour la liste B, des plantes qui ont été abandonnées alors qu'elles ont été d'usage traditionnel. Henri Joseph a déjà évoqué le travail de Tramil avec la classification de plantes comme étant toxiques. La tradition n'est pas un gage de sécurité et la preuve, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution de notre tradition, on a éliminé des plantes et on continue à le faire. Alors certaines plantes médicinales sont considérées comme ayant un intérêt autre que médicinal et donc du coup sont sorties du monopole, 148 plantes a été évoquée. Il est important de remarquer que ce sont des formes qui sont hors monopole. La plante en l'état, la plante en poudre ou la plante sous forme d'extrait à queue, à savoir donc des formes sur lesquelles on a un recul d'utilisation traditionnelle. Et c'est à mettre directement en regard avec la problématique des compléments alimentaires. Je saute une diapo. Dans les compléments alimentaires, une multitude de plantes, beaucoup de plantes médicinales, donc un arrêté plantes qui définit de manière officielle les plantes autorisées dans les compléments alimentaires. Le texte est déjà assez vieux, hein, il a 5 ans, 540 espèces végétales, à peu près 1000 parties de plantes, et puis des plantes réellement enregistrées dans les compléments alimentaires, notamment par le biais de la libre circulation des denrées alimentaires en Europe. Et on a finalement à peu près 1020 plantes qui sont enregistrées actuellement dans des compléments alimentaires, dont beaucoup sont des plantes de la liste A au monopole. Beaucoup sont des plantes qui sont répertoriées par l'Agence européenne du médicament avec des indications thérapeutiques et des conditions d'emploi. Mais pour les compléments alimentaires, on ne peut pas avoir de mention thérapeutique.
On n'a pas d'obligation d'étiquetage similaire à celui du médicament à base de plantes. Et il y a beaucoup de conditions d'emploi de plantes médicinales définies par l'OMS, par l'EMA, mais pas de report de ces restrictions, de ces exigences, de ces gages de sécurité et d'information pour le consommateur obligatoires sur l'étiquetage des compléments alimentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est à réfléchir. Et ces guides médicaux de l'OMS et de l'EMA sont d'excellents guides, justement, pour la pratique de l'herboristerie. Alors, je reviens une diapo en arrière. Une extension du monopole semble quand même obligatoire au regard des pratiques actuelles de l'herboristerie. Et il y a quand même pas mal de plantes qui peuvent raisonnablement sortir de la liste A pour des emplois éventuellement restreints à l'usage externe dans certains cas ou avec des conditions d'emploi qui seront définies. Donc l'ouverture du monopole, elle est tout à fait envisageable, mais elle n'est pas envisageable sur l'ensemble de la liste A. Et elle n'est pas non plus envisageable sur l'ensemble des plantes qui figurent dans des compléments alimentaires, parce qu'on est assez souvent sur des plantes qui peuvent être toxiques, pour lesquelles on n'a pas de données scientifiques, ou pour lesquelles on est vraiment sur un usage qui est exclusivement un usage dans un but thérapeutique, pour lesquels on ne peut pas facilement trouver d'usage de type alimentaire. Alors on peut se poser la question également du statut de la qualité des plantes. Donc si on regarde les ventes de plantes pour tisane en France, on voit que la très large majorité pour la grande distribution, c'est donc du statut alimentaire. Et puis, on a une petite part de plantes vendues en officine qui sont des plantes de statut pharmaceutique et de qualité pharmaceutique. La qualité pharmaceutique, elle a été évoquée. C'est pas forcément la qualité organoleptique. Par contre, c'est une garantie d'absence de contamination sur tous les lots. Et donc, on a évoqué à plusieurs reprises le fait que peut-être on pourra avoir de temps en temps un contrôle. Non, la qualité d'une matière première à usage pharmaceutique, c'est une qualité qui est garantie tout le temps. Donc, c'est un élément qui est quand même intéressant. Pour des plantes de circuit court, pour des plantes un peu bénignes, pour des plantes sur lesquelles on n'a pas spécialement d'inquiétude pour la qualité, est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'une qualité qui ne soit pas pharmaceutique, mais qui soit quand même assurée d'une manière raisonnable dans un cadre de pharmacie? C'est quelque chose qui doit être soumis à réflexion, mais ça semble très difficile vu le champ réglementaire inhérent à la pharmacie et aux médicaments. Alors les problèmes de qualité, ils sont multiples. L'identité de la plante, évidemment, c'est quelque chose d'important. Sur des circuits très courts, on a quand même tendance à minimiser ce type de problème. Je vais quand même rappeler un accident assez dramatique en Hollande en 2013. De la racine de guimauve, non, c'était pas que de la guimauve, c'était de la belladone. C'était de la récolte en milieu sauvage en Europe centrale. Et puis il y a des accidents avec des familles pour lesquelles les déterminations ne sont pas forcément très faciles, qui sont plutôt dans un cadre privé. Donc je reviens sur le nom de safranée qui a déjà été évoqué tout à l'heure par Thierry. Alors pour l'identité de la plante, a priori, l'herboriste, il est capable de se débrouiller. L'herboriste de comptoir aussi, il est censé être capable de faire de l'identification de plantes sans trop de problèmes. Pour d'autres problèmes de qualité, là, on est un peu plus désarmé quand on n'a pas tout un arsenal de contrôle. Et la littérature, notamment relative à la qualité intérieure des plantes médicinales sur des pays qui sont des gros producteurs de plantes à l'export, est particulièrement inquiétante sur les métaux lourds, les pesticides, les contaminations microbiennes, voire des contaminations anthropiques avec de la metformine, par exemple. Ou encore, on se souvient de l'exemple de cette plante africaine bourrée de tramadol à cause de l'urine humaine ou animale. Donc, il y a une problématique de qualité qui est plutôt inhérente à l'importation et qui est à prendre en compte. On ne peut pas totalement occulter des aspects de contrôle qui sont des aspects complexes et coûteux du contrôle. D'autre part, j'attire votre attention sur le fait qu'un texte européen se prépare par rapport aux contaminations par les alcaloïdes de Sensson ou d'héliotrope dans des plantes de récolte, et les chiffres qui sont proposés en termes d'exposition sont tellement bas qu'il risque d'avoir un rejet d'à peu près tous les lots de plantes qui seraient produits en France. Et ça, il faut absolument que le législateur le prenne à bras-le-corps dès maintenant. Ça, c'est quelque chose qui a à débattre au niveau européen tout de suite avant qu'il y ait des normes qui s'imposent par le biais réglementaire ou législatif. Pour les préparations de l'herboriste, je vais passer très rapidement. On est plutôt sur des préparations à caractère alimentaire ou cosmétique. Il y a des bonnes pratiques de préparation qui s'appliquent dans le milieu officinal, qui sont extrêmement lourdes. Le pharmacien d'officine est extrêmement bloqué par rapport à ces préparations en termes de diversité et en termes également de contraintes. A priori, des exigences de ce type-là sont totalement inapplicables au domaine de l'herboristerie. Je vais passer là-dessus. Alors pour ce qui est des revendications sur les plantes, quel positionnement ? le a priori, l'herboriste, si sa fonction est redéfinie de manière officielle, ne sera pas de statut paramédical, je pense. Il sera plutôt avec un statut de commerçant ou de paysan. A priori, les choses se dirigent quand même plutôt dans ce sens-là. Je choque personne, j'espère, à cette table. En l'occurrence, on est donc sur un positionnement à l'interface entre santé et bien-être. On ne va pas se placer dans du vrai thérapeutique. C'est le problème actuel. C'est assez compliqué. Il est obligatoire qu'il y ait une reconnaissance des allégations traditionnelles des plantes pour assurer une sécurité juridique aux herboristes actuellement. Et on peut considérer le cas des compléments alimentaires qui contiennent des plantes médicinales. Très souvent, c'est des produits qui ont un but thérapeutique, qui sont consommés dans une approche d'automédication. On est très souvent sur des produits qui ont des caractéristiques de médicaments par fonction, même si ce n'est pas forcément le cas d'un point de vue administratif. Quand on regarde les compositions d'un complément alimentaire à base de plantes médicinales et ceux d'un médicament à base de plantes tel qu'il pouvait exister avant sur le marché, c'est souvent la même composition avec les mêmes posologies. Donc on est quand même sur un but thérapeutique qui est assez évident pour la majorité des compléments alimentaires à base de plantes qui circulent. Actuellement, pour les compléments alimentaires à base de plantes, il n'y a pas de consensus au niveau européen par rapport à la manière de reconnaître les allégations. Donc, des allégations qui ont fait l'objet de demandes sont autorisées pendant une période transitoire qui dure quand même depuis 10 ans. Vous avez peut-être remarqué, si vous vendez des compléments alimentaires, qu'il y a également des allégations de type générique où on prend une plante, on rajoute une vitamine pour laquelle on peut revendiquer une allégation. Et du coup, on a l'impression que la plante a cette allégation-là. Donc là, concrètement, il faut absolument débloquer cette situation. On peut tout à fait réfléchir à des allégations simples qui se situent à l'interface entre santé et bien-être sur des effets plutôt physiologiques pour des plantes de l'herboristerie. Et là, les propositions de l'industrie des compléments alimentaires au niveau européen peuvent être particulièrement intéressantes pour aider justement ce travail de la part du champ de l'herboristerie. Alors, je vous rappelle également qu'il y a une instance qui n'est pas représentée ici aujourd'hui, qui est l'ANSES, l'Agence de sécurité des aliments, qui est la tutelle par rapport à la sécurité des compléments alimentaires, qui fait des travaux sur les compléments alimentaires et sur des produits connexes qui contiennent des plantes médicinales, notamment qui a des activités de nutrivigilance, qui est l'équivalent de la pharmacovigilance, un système qui est méconnu par les soignants malheureusement, qui est certainement méconnu également par les herboristes. Si vous voyez des effets indésirables de produits à base de plantes et de plantes, c'est évident que pour faire avancer le schmilblick, pour faire avancer la sécurité, il faut faire des déclarations de nutrivigilance. Elles sont assez faciles à faire. Et d'autre part, l'ANSES travaille sur la problématique de la sécurité des compléments alimentaires à base de plantes via un groupe de travail plantes par rapport aux doses, par rapport aux affichages, par rapport aux restrictions. Et donc ce travail est un travail qui peut également bénéficier au champ de l'herboristerie, y compris pour la plante en vrac. Et puis le multi-usage me semblerait très souhaitable pour beaucoup de catégories de produits à base de plantes et notamment pour les huiles essentielles. Donc je pense que vous êtes tous conscients des aberrations de la multiplicité des statuts des produits à base d'huile essentielle avec un statut, une destination, donc forcément un mode d'utilisation, une posologie obligatoire. C'est comme ça qu'on se retrouve avec de l'huile essentielle de basilic, chimiotype estragol, molécule fortement mutagène, proposée pour la voie orale sous forme de complément alimentaire parce que la TVA est plus faible et parce qu'il n'y a pas de pictogramme de sécurité, avec des posologies qui dépassent très largement les recommandations d'exposition à l'estragol dans le cadre d'une alimentation normale, ou encore des produits médicamenteux contre-indiqués aux nourrissons parce qu'ils contiennent des huiles essentielles, mais des produits cosmétiques pour lesquels il n'y a aucune mise en garde. Donc le multi-usage, ce serait intéressant de le reconnaître, mais réglementairement, je pense que c'est quasiment impossible, fort malheureusement. Donc là, bah, c'est la déontologie, c'est les modes de référencement qui vont compter maintenant. Pour ce type de problématique, c'est vraiment l'engagement de l'herboriste dans sa pratique qui est important. Et j'arrive décidément pas à passer mes diapos. Et en conclusion, donc, l'arsenal des plantes en l'état est quand même pas mal développé pour l'herboristerie. 150 plantes, c'est déjà un certain nombre de plantes pour travailler dans une pratique courante de conseil courant, il me semble. On peut tout à fait prévoir une extension, donc une ouverture du monopole pharmaceutique, c'est tout à fait souhaitable. Par contre, il faut réfléchir à une manière rationnelle d'ouvrir ce monopole. Donc, il faut effectivement que ça soit une conversation entre les acteurs et les pouvoirs publics, DGCCRF, ANSES, ANSM. Je vous rappelle donc que la tradition ou le fait qu'il y ait une commercialisation d'un produit n'est absolument pas un gage de sécurité, d'innocuité. Et donc, il faut avoir une réflexion également par rapport à la protection du consommateur, même si l'herboriste doit être formé de manière à protéger le consommateur lors de la délivrance. Il faut quand même poser d'emblée des garde-fous. Et globalement, pour l'accompagnement de la vente via des allégations, c'est la déontologie et la formation qui sont importants, mais également l'étiquetage qu'on pourra retrouver sur les produits, qui va être un guide pour le dispensateur et pour le soignant. En tout cas, il y a besoin d'une définition d'un statut officiel pour l'herboriste, c'est une évidence vu les pratiques qui existent à l'heure actuelle. Peut-être que c'est un peu décousu, mais je vous remercie de votre attention.
Sans redire ce que vous avez dit, nos amis doivent retenir les pistes qui vous semblent possibles aujourd'hui. Je ne parle pas des rêves que l'on a effectivement dans la salle, ça c'est intéressant, on les a bien vus effectivement émerger, mais qu'est-ce qui vous semble jouable aujourd'hui entre la législation d'un côté, entre les demandes qui se sont véritablement exprimées, qu'est-ce qui vous semble possible?
Alors moi je ne suis pas législateur.
Non, je sais, mais justement c'est bien pour ça que je vous pose des questions.
Les universitaires peuvent par contre avoir quand même un certain poids sur notamment l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, etc. Ouverture partielle du monopole pharmaceutique sur des plans de vrac avec éventuellement des restrictions par rapport à l'usage externe, ça me semble quand même tout à fait envisageable. L'allégation traditionnelle, faut pas se voiler la face, elle est pratiquée dans le cadre du produit manufacturé. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas être pratiquée de manière officielle et reconnue par l'herboriste. Et justement, c'est l'occasion d'interroger les pratiques et d'interroger les revendications. Et c'est aussi l'occasion de se poser des questions assez larges sur la déontologie, etc., en lien avec toutes les réflexions qu'on a eues auparavant au cours de ce colloque.
Merci à vous, Père Champy. Bien, bien, bien résumé l'affaire. Souhaitez-vous... Là aussi, je vais un petit peu gardien du temps, mais est-ce que sur cette partie-là, vous souhaitez leur intervenir? On vous passe le micro. 1, 2, ok. Notre ami toxicologue, je vous en prie.
Oui, en fait, je voulais juste revenir sur votre présentation. Je suis un peu plombée, en fait, par votre présentation. Je suis pharmacien, toxicologue, spécialisé sur les substances d'origine naturelle.
Oui, c'est un peu toxique, peut-être, surtout
voilà,
le plomb.
J'ai pas l'impression, en fait, que vous nous donnez des possibilités de discussion, d'ouverture pour ce débat, en fait. J'ai l'impression que les choses sont posées comme ça et que globalement, on doit être obligé de partir sur votre constat à vous, sans pouvoir créer quelque chose d'autre. En fait, j'aurais aussi... Alors, je connais en effet les travaux de la NSM. Je voulais aussi parler de ce que font les centres antipoison. Et dans les
compris. Mais
dans les centres antipoison, juste
non,
les
non,
plantes...
Je relance sur avant. Je vous relance sur avant, puisque vous dites effectivement que ça vous semble bloqué, etc. Bon. Sur quoi, pour vous, il faut partir, tout en restant dans le sujet? C'est intéressant. Non, mais...
Pour moi, en toxicologie, donc on parle d'abord du danger et après des expositions. Bon, si on veut parler des alcaloïdes pyrrolizidiniques, pour moi, il y a beaucoup de lobbying, beaucoup d'enjeux économiques qui font que c'est devenu un problème alors que ça n'en était pas un. Et que si réellement il y a un problème, c'est plutôt au niveau du miel qu'on donne aux enfants sur les alcaloïdes pyrrolizidiniques plutôt que sur les infusions, etc. Bon, sur un autre sujet, en effet, le nom de safrané, pour moi, c'est un sujet qui est un épiphénomène, sachant que sur les centres antipoison, quand on revient sur les déclarations, sur les mésusages, eh bien, les plantes, elles apparaissent en dernière position. Les premières positions, ce sont les produits d'entretien, les médicaments, et les plantes arrivent en dernier. Alors, il y a, c'est vrai, une forte augmentation. Il y a une présentation d'un centre antipoison de Lille qui a montré que sur les extraits, on va dire, depuis 15 ans, il y a vraiment une forte augmentation par rapport aux effets indésirables, enfin, aux mésusages, pardon, sur les huiles essentielles. Donc là, en effet, c'est parce que tout le monde pense que les huiles essentielles, c'est une panacée, et donc tout le monde se rue là-dedans. Mais pour moi, si vous voulez, je sortirais quand même, en tant que pharmacien, en ayant eu la formation pharmacien, avec quand même cette rigueur que l'on apprend, qui est liée justement à une exigence de qualité, par rapport à des substances qui sont très actives et donc dont la marge avec le côté poison est quand même faible, je sortirais quand même ces plantes, parce que les plantes dans les usages, alors dans les usages traditionnels, pour moi, n'ont rien à voir. Et le niveau de toxicité, notamment, alors le niveau de toxicité est une chose, et après l'exposition, et donc les calculs d'exposition, n'ont rien à voir. Oui. Et donc, pour moi, si vous voulez, il y a quand même une place à quelque chose de beaucoup plus vivant que ce qu'on nous demande en pharmacie, qui est plutôt du hyper cadré. Et donc, pour moi, la plante, elle est morte quand on l'utilise en pharma. Voilà.
Merci bien. Ce qui n'empêche pas que... ce qu'il y a d'assez pénible, c'est peut-être la chaleur, voyez-vous, et le fait que effectivement c'est dense. Ça, c'était bon, voilà, c'était un choix d'essayer de faire passer pas mal de personnes aujourd'hui. Mais pour avoir animé quand même au kilomètre beaucoup de débats, j'ai pas le sentiment, alors évidemment qu'il y a des frustrations, je suis gardien du temps aussi, hein, donc ça, ok, ça je le prends, je l'assume, c'est mon job depuis des années. Mais ça parle quand même, madame. C'est-à-dire que sur les formations, sur ce que l'on a vu, la place de la plante, la place de l'herboriste, etc., ça sort. C'était quand même ça aussi un peu le cœur de l'affaire. Ce qui n'empêche pas ce que vous venez de dire. Mais c'est pas du tout fermé. Hein.
Je voudrais juste rebondir. Les pyrolizidines, hein, je disais que les seuils qui ont été fixés sont beaucoup trop bas. Oui, qu'il fallait justement pas appliquer ces seuils-là. Hein. Enfin, c'est infaisable.
C'est bon pour le débat technique ? Ok. Non, mais c'est intéressant. Moi, je sais pas du tout. Donc, pas.
Bah, c'est en fait.
J'ai compris le truc, hein, mais j'ai compris le cœur de l'affaire. Enfin, j'ai pas.
En fait, c'est assez simple. Hein, si on veut un exemple concret,
vas-y.
Si on continue d'appliquer les recommandations en termes d'exposition aux pyrolizidines, un plant de sénescence sur un hectare de menthe, la tisane de menthe sera considérée comme dangereuse et impropre à la consommation. Voilà. Donc, on touche au délire, quoi. Donc, c'est vraiment un pur délire.
D'accord. Ok.
On pourra en discuter en dehors si vous voulez. La problématique est relativement complexe et si vous la transposiez à une molécule synthétique, vous trouveriez normal que les seuils soient aussi bas.
Bon. Ok, super, vous en parlez tout à l'heure et vous devenez copains et vous passez un 31 décembre ensemble. Alors monsieur, qui a le... Parce que là vous avez... Ouais, tu te donnes la parole, c'est pas... J'essaie de donner un petit peu à des gens qui ne sont pas encore exprimés. Je vous en prie. Ça va venir, normalement ça vient. Non, ça vient pas. Le tripotez pas parce qu'à mon avis il est très capricieux. Ça va toujours pas. Bon.
Ah là. Là c'est bon, ça fonctionne.
Ouais.
Bon. Bonjour, je m'appelle François. Alors je suis pas forcément du métier, je suis pas herboriste ou quoi que ce soit. Je suis juste passionné par les plantes.
Ouais.
À la base, j'ai créé un petit stand dans la région de Bordeaux de plantes aromatiques fraîches. D'accord. Je me suis passionné, je suis vraiment très content d'être là et de vous voir tous. Mon premier livre que j'ai acheté, c'était un livre de Michel Pierre, et le dernier, c'était de Thierry Thévenin. Donc je suis super content de vous voir ici. Moi, je voudrais parler un petit peu du côté très pratique et parler un petit peu aux législateurs et aux personnes qui s'occupent un petit peu de la communication sur les plantes, les bienfaits ou les dangers des plantes. Parce que j'ai l'impression que, étant donné que c'est à la mode depuis des années, ça fait pas très longtemps, mais ça fait quand même quelques années que les bienfaits des plantes médicinales, des huiles essentielles sont vraiment mis en valeur partout. Il y a plein de gens qui font aussi n'importe quoi. Et je pense qu'il faudrait aussi cadrer les plantes en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne savent pas forcément si le thym, alors il y a plein de variétés de thym, si le thym frais est aussi bénéfique que le thym sec, si la verveine, j'ai appris dans un de vos livres, que par exemple la verveine ou une plante... qui avait mal séché, qui était un petit peu noire, pouvait du coup être un petit peu dangereuse pour la santé. Alors il y a des gens qui achètent des plantes fraîches, qui les font sécher chez eux, mais ça va peut-être être dangereux pour eux en tisane. Les gens qui vont acheter de la sauge.
À votre avis, cette éducation-là que l'on entend très bien, oui. Qui effectivement pourrait donc la faire aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas loin dans certains cas aussi de l'allégation. Enfin, dans certains cas, hein, je sais pas, on est borderline, de toute façon on est borderline depuis le début, hein, donc c'est le principe, voilà. Mais qui pourrait le faire aujourd'hui, au-delà des merveilleux médias qui s'en foutent?
Eh bien, je pense que les herboristes, s'ils étaient Enfin, je parle pour moi. Je vais commencer là, à la
Quelle
rentrée.
Est votre attente, vous ? Quelle est votre attente ? C'est intéressant.
Moi, qu'il y ait un diplôme reconnu par l'État. Parce que moi, ça fait 2 ans que je me dis, bon, il faudrait que je fasse une formation quand même pour pouvoir conseiller mes clients correctement. Mais je ne sais pas si telle ou telle école va être reconnue et si vraiment ce qu'on va apprendre est correct.
Donc vous avez besoin d'une garantie, ce qui est
d'une garantie, normale,
une sécurité.
Voilà. Une sécurité de ça et également concernant la population, faire un état des lieux des plantes. Expliquer que par exemple, je sais pas, peut-être que l'huile essentielle de lavande peut être mise sur la peau contre les poux, ou est-ce que ça peut être dangereux parce qu'on entend de tout et de n'importe quoi, qu'il y ait des livres, des choses officielles en accord avec les herboristes,
les 5 écoles qui font le boulot, hein,
les pharmaciens, les chimistes, oui. Et voilà, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un état des lieux précis pour chaque utilisation. Et alors, moi j'ai lu des dizaines de bouquins d'herboristes, voilà. Mais on entend des fois des choses différentes sur les plantes, sur la même plante, et on est un petit peu perdu.
Bien, non, mais c'est intéressant d'avoir justement ce point de vue-là. Vous vendez vos plantes fraîches, on l'a bien compris. Du côté de Bordeaux, c'est ça? Vous êtes ok. Vous faites quoi? Basilic, sauge, pourquoi?
Oui. Menthe. Ouais, j'ai une quarantaine de variétés. Voilà. Alors, oui. On peut expliquer que bon, il y a beaucoup de côté alimentaire.
Ah oui.
Voilà. On va expliquer que la sarriette, c'est très bon pour les petits pois, et l'herbe de Marcel Pagnol, tout ça, là. Oui. Mais est-ce que si les gens l'achètent pour faire des tisanes, est-ce que ça peut être dangereux ou pas?
Bah, ça nous fait une très bonne transition sur les métiers. Hein.
Voilà.
Ça nous fait très bonne transition sur les formations.
Un petit peu.
Voilà, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça aussi.
C'est ce que Thierry disait. Non,
mais je comprends. Vous avez besoin effectivement d'un coup de tampon, on va dire. Alors, je sais pas qui veut le prendre ça, mais ça, on va y arriver. Hein, donc on va arriver au sujet suivant. On va en parler. Bon, donc à ce moment-là, donc,
je crois que
on le garde.
Vous voulez intervenir, Samir, c'est ça?
Allez, hop.
Juste très très rapidement, le monsieur qui avait posé la question. Allô, moi, bon, c'est pas grave. Je le dis pour les autres. Très rapidement, la notion de dire les informations peuvent être contradictoires en fonction des canaux sur une même plante. Alors, on peut discuter de la plante, mais par exemple, vous avez pris l'exemple d'huile essentielle de lavande. Huile essentielle de lavande, ça ne dit pas grand-chose en fait au départ. C'est-à-dire que c'est comme si je vous dis vin rouge. Les gens qui boivent du vin rouge dans la salle savent que vous allez pouvoir rencontrer différentes qualités de vin rouge en fonction de à qui vous allez vous adresser, des différents taux de sulfite, différentes manières de produire, différents cépages, différents lieux, différents coteaux, différentes expositions, différentes années. C'est pareil avec les huiles essentielles et ça impacte aussi sur la toxicité parfois parce que quand une huile essentielle de lavande est produite à 1200 mètres d'altitude en cueillette manuelle, distillation complète, pas de phytochimie, etc., vous avez un super produit très actif. Alors attention aussi à comment utiliser, bien que la lavande ait une marge thérapeutique énorme, donc on est tranquille. Mais si vous utilisez une huile essentielle de lavande que vous avez achetée sur internet, on a fait quelques analyses comme ça, hein, donc c'est du documenté, sur internet, qui est en fait un lavandin.
Un lavandin, donc un
hybride, dans lequel on a ajouté du linalol de synthèse. Linalol, lui, qui à la base était un linalol cristallisé puisque de synthèse, qui a passé peut-être un an dans un conteneur, donc qui s'est oxydé, et que vous introduisez ça dans l'huile essentielle, vous avez un linalol hyperoxydé, vous avez une huile essentielle qui va être super allergisante. Parce que plus le produit est oxydé, plus il est allergisant. Voilà. Donc voilà, les itinéraires de production aussi et la volonté qu'on a à se fournir.
Ça résout pas l'interrogation de monsieur qui se dit comment je fais là. Vous le complexifiez encore plus.
Mais parce que c'est complexe.
Non, mais c'est complexe. Je l'entends. Hein. C'est...
Oui. Ça ramène un peu à, je fais de l'auto-citation, de l'auto-référencement, mais ça ramène un peu à cette citation de la conversation et notre atelier, et notre laboratoire. Il faut discuter ensemble et il faut être nombreux à s'intéresser à la question et se parler. Enfin, voilà.
Merci. Et dans l'absolu, il y a des référentiels publiés pas mal, OMS notamment.
Je sais pas, qui a le micro là? Allez-y. Mais vous allez l'avoir. Deux dames, me semble-t-il. Une, on y va, et puis après vous. Non, attendez, Madame des Hautes-Alpes, qui pense que c'est une toute petite bourgade où elle habite.
C'est une toute petite bourgade. Voilà. Par contre, je pense que la réponse, c'est justement les herboristes. Un herboriste qui est bien formé, il peut répondre à toutes ces questions lorsque nos clients, ces gens qui viennent chez nous, ils nous posent ces questions. Et on leur répond parfois, effectivement, quelle lavande vous voulez, de quoi vous parlez. et on peut donner des réponses. D'où l'importance, effectivement, qu'il y ait des arboristes formés, reconnus et qui peuvent être des références. Il y a besoin de références et ils sont là pour ça. Maintenant, comment les former, comment les reconnaître, c'est le rôle de notre débat. Mais je vous assure qu'ils sont là pour ça, les arboristes.
Le thème du colloque, Aline Marquand.
Désolée, on va peut-être réatterrir un peu brutalement. L'herboriste va donner une réponse, mais deux herboristes différents vont donner très vraisemblablement deux réponses différentes. J'ai quand même beaucoup de données là-dessus. J'ai suivi énormément d'enseignements et dans un même enseignement, vous pouvez avoir deux thérapeutes qui se succèdent et qui disent des choses totalement différentes sur la posologie, sur la manière de l'utiliser, sur la nature de l'extrait. Et je crois qu'il ne faut pas rêver, on n'aura pas un traité qui va faire la vérité pure sur la phytothérapie. On a des écoles, on a des courants et on a des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, à commencer par les experts, si on devait reparler de l'estragol, par exemple. Donc, on peut essayer de tendre vers ça pour essayer d'avoir des pratiques raisonnables, mais on n'est pas dans une science exacte, standardisable, parce que la plante est un produit vivant dont la composition change en permanence selon 1000 facteurs et en particulier si on le transforme, qu'on va administrer à un organisme vivant complexe et qui va réaliser des interactions multiples. Et bien là, si vous arrivez à faire un traité vraiment universel avec tout le monde d'accord, j'attends avec impatience de le lire.
Merci bien. Je vous en prie. Voilà. Vous avez le...
J'allais dire quelque chose qui est très similaire, mais à mon avis, en moins bien. J'essaie quand même d'apporter d'autres remarques. Je vous remercie. Alors moi, je m'appelle Maëva. Je suis née à Tahiti. Du coup, Tahiti, c'est la Polynésie française. Le territoire est équivalent à l'Europe, même s'il y a beaucoup d'eau au milieu.
Bien de le rappeler, parce que...
Voilà. Et là-bas, en fait, la principale voie de transmission des connaissances des plantes se fait de façon... oral, ce qui signifie que pour arriver aux 30 ans de bibliographie, on n'est pas rendu. Je parle de ça pour commencer, pour expliquer aussi le fait que... moi, j'étais graphiste pendant 10 ans, j'ai arrêté ce métier, je me suis formée pendant 3 ans en plantes, et aujourd'hui, je suis cofondatrice d'un atelier de création et de créativité qui implique les plantes d'une autre manière. Et j'ai fait un an par correspondance... un an en BPREA pour avoir une capacité agricole en plantes aromatiques et médicinales. Et je n'ai pas appris sur le biotope. J'ai trouvé qu'il y avait 1000 voies de distillation, qu'effectivement, la gémothérapie, si le bourgeon il est cueilli tôt et tout de suite transformé, ce n'est pas la même chose que s'il est passé par un camion. Excusez-moi, c'est un peu décousu, mais j'en viens là pour dire que j'ai trouvé que le domaine des plantes demande de la patience, qu'il y a effectivement énormément de voies de formation, qu'elles soient orales, qu'elles soient par l'échange ou par des débats comme ça. Je crois que c'est intéressant de se dire... il y a la notion de patrimoine immatériel culturel qui est évoquée hier au 136 rue de Vaugirard, entre des gens différents. Et peut-être que ce qui est intéressant, peut-être en support d'une loi qui serait définie bientôt, c'est aussi de se dire comment les enfants accèdent aux connaissances des plantes. Et donc, la voie de l'éducation est certainement essentielle, peu importe la forme.
Merci à vous, Maëva. Merci, merci bien. D'autant que nos chers merveilleux petits et adolescents sont capables de vous citer le nom de 12 clubs de football, de 15 jeux vidéo et de 4 oiseaux et de 3 arbres. Voilà. Alors, je sais pas, on peut se faire, vous avez Caroline. Non, pardon, c'est pas Caroline. C'est Caroline Gagnon.
En fait, c'est pour continuer sur la question de la dame qui est pharmacienne toxicologue. À Monsieur Champy, comme moi aussi, j'étais vraiment étonnée de l'assurance avec laquelle vous dites oui, ça se peut, non, ça se peut pas. Et peut-être, c'est juste que je comprends pas votre processus décisionnel et vous dites que vous n'êtes pas législateur. Donc, est-ce que vous influencez les législateurs?
Non.
D'où vient cette information pour être assuré que oui, 120 ans?
Non, mais c'est de voir ce qui s'est passé d'un point de vue juridique.
Oui.
L'Espagne a dit on a des plantes médicinales, on s'oppose à ce que elles soient enregistrées comme complément alimentaire. Ça a été cassé au niveau européen. Mm-hmm.
quand il y a eu des demandes
d'enregistrement. Je comprends par rapport à la troisième voie, ça va parce que vous êtes soumis d'une législation qui est beaucoup plus large, mais le fait que vous ayez seulement 148 plantes libérées et que ce que vous avez affirmé, c'est 148 plantes, ça va bien, et je me souviens pas exactement termes, mais c'est ça, oui, ça va passer, ça passerait pas. Peut-être que c'est juste une opinion, mais c'était dit comme si c'était une affirmation. Et peut-être que ça l'est, en fait. Je réalise que je me sens excessivement privilégiée d'avoir pu parler aux législateurs pour qu'il y ait un vrai dialogue. Et ce qui m'étonne, c'est que cette présentation, elle a été faite avant cette rencontre-ci, avant ce premier dialogue-là, et il y avait tant d'affirmations qui étaient un peu plombantes. Ah non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Donc,
c'est simplement que quand vous regardez la liste, hein,
Pierre,
oui. C'est difficile de tout ouvrir, quoi.
Merci bien. On y va, encore une.
Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le problème de la gestion des ressources, qui est effectivement essentiel. Moi, j'aurais aimé vous entendre parler de la culture biologique, parce que évidemment, une plante médicinale qui aura été cultivée avec des intrants, des pesticides, etc., n'aura pas évidemment la même qualité qu'une plante biologique.
Alors autrement dit, est-ce que toutes les plantes, toutes les simples doivent être biologiques? Je vous en prie. Claire.
Et comme tous les pesticides sont solubles dans les huiles essentielles, évidemment que si on n'achète pas des huiles essentielles biologiques, eh ben, on consomme, que ce soit par la peau ou en interne ou dans un produit cosmétique ou quoi, on consomme des pesticides ou des voilà. Donc ça paraît assez évident, mais pour les plantes d'une façon globale, c'est évident aussi parce que si on regarde qu'on souhaite entretenir la santé par l'usage des plantes médicinales sous toutes leurs formes, eh ben les pesticides vont être très solubles dans l'alcool, et puis en plus pour vont se retrouver dans les ruisseaux, vont être consommés par les abeilles au niveau des nectars et au niveau des pollens. Donc c'est tellement important pour la biodiversité, l'agriculture biologique, que c'est une évidence pour nous en tant que producteurs.
Il n'y a pas d'obligation.
Sauf qu'aujourd'hui, il y a 80% des plantes qui sont produites en conventionnel et avec des pesticides. On doit être à peu près à 20% de plantes bio. Je sais qu'une des 39 recommandations de la première mission, là, c'est d'arriver à 50%. Mais ça veut dire qu'on est encore même très loin des 50% de plantes bio aujourd'hui dans ce pays.
Donc 20% seulement aujourd'hui. Merci beaucoup. Une petite... on y va. Oui.
Je prends la parole aussi. Oui. J'ai aussi une question. Vincent, donc distributeur de parole, mais aussi producteur depuis 25 ans en circuit court. Donc j'ai deux. Je voulais effectivement reprendre ça. C'est que en agriculture biologique, il y a un mouvement et on pourrait faire une filière d'excellence aux plantes aromatiques et médicinales en allant à 50% voire plus très rapidement s'il y avait vraiment une volonté politique. Mais ça, c'est de la volonté politique véritablement. Mais
je vous rappelle que demain vous allez voter pour la PAC.
On fasse pas une bio à pas cher. On voit en légumes en ce moment, on est en train, la France se bat pour que on n'a pas le droit de chauffer les serres pour les tomates entre autres en bio, mais pour l'instant l'Europe elle veut accepter absolument. Il y a des lobbies très forts. Heureusement qu'il y a des mouvements d'agriculteurs contre ça. Sinon, moi je voulais dire que au niveau qualité des plantes, donc tout le monde parle des 148. Bon, nous on a un peu épluché les 148 en tant que producteur en vente directe. En fait, si on regarde un peu dans les 148, on a quand même de la pelure de pomme, de la pelure d'oignon, etc. Donc en fait, ou de la gentiane qui se vend pas que en thérapeutique, enfin ou de la menthe. Donc si on a 70 plantes effectivement orientation plus thérapeutique, je pense que c'est bien le maximum. Donc ces 148 est toujours un peu une appellation un peu excessive pour moi. Voilà. Et donc c'est vrai que du coup sur 70 de passer à un peu plus de plantes comme la fleur d'aubépine qu'on est en train de ramasser ou le bleuet qu'on a mis en culture, ça serait assez agréable qu'on vend depuis 25 ans quoi.
Une petite dernière pour vous s'il vous plaît pour cette session. Hein. Ouais, je sais, mais là je vous en prie.
Alors, je me présente, là c'est plus la Bretagne.
Vous avez le droit. Elle est représentée par Joël Labbé.
L'école d'herboristerie donc de Bretagne.
Vous êtes où? Et c'est Finistère, Morbihan, Côte d'Armor,
je crois. C'est à Pounéour-Ménez, à côté de Morlaix.
Ouais.
Et justement, en faisant un peu un bilan et l'espoir que je caressais en venant ici, c'est effectivement, j'avais l'impression qu'on arriverait peut-être à une certaine conciliation. Et il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué parce que, mais qui a été évoqué par les ultramarins ce matin. Mmh. Et ben moi, je trouve qu'on est des ultra-territoires. Et de ce fait, la France n'est pas que parisienne, elle est surtout une France très diversifiée avec aussi toutes ses plantes, toutes ses terres. N'a pas été évoqué. Alors moi j'ai un parcours bon de chimiste, de protection de l'eau, donc de chimiste de l'eau, mais éducatif dans les sciences universitaires. Et une bonne Bretonne accrochée à sa terre et à sa mère aussi. Et n'a pas été. Donc moi j'ai été enthousiaste quand j'ai repris. Donc j'ai fait l'université où. Ben, j'ai trouvé beaucoup de tristesse, ouais, souvent. Et en faisant l'école d'herboristerie, je retrouvais des sources. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié l'enthousiasme et les projets des jeunes. Et je voulais évoquer le problème de l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs qui sont formés, qui ont envie d'un environnement de demain durable, qui sont passionnés. Et qui, de par les lois européennes diverses, je suis pas, moi, plutôt dans le milieu paysan, mais qui a été plutôt des boulangers meuniers, des bouchers maquignons, et donc de la bonne nourriture. Et ce que j'aime beaucoup à Cap Santé, c'est que justement, ce qui est dit, c'est la santé dans l'assiette. Donc avant d'aller soigner, si on arrivait à avoir des bons produits un peu partout, ça serait bien. Et donc, quand j'ai vu le thème « Les métiers de l'herboristerie », je me suis fait donc un film, sûrement. Bon, on a peut-être rêvé. Et j'aimerais bien...
Que vous attendiez précisément?
Un nouveau silo. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'il y ait un nouveau silo, mais qui balaye l'ensemble de toutes les professions.
Un silo pour
l'ensemble. Voilà, c'est-à-dire qu'on aille effectivement du sol, avec toutes ses qualités, qu'il n'y ait pas... Là, j'ai eu l'impression que les herboristes thérapeutes étaient un peu exclus, les herboristes de comptoir, les circuits courts, enfin, je pense que les territoires, que ce soit en France ou ailleurs, sont assez vastes pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, et que, justement, il y a besoin de création, et non pas d'essayer de comptabiliser tous les plans, le moment du développement durable et justement du partage avec les territoires, ben je trouve que la plante est quelque chose, comme on a dit, d'un bien commun et arriver à décloisonner tout ça et que tout le monde se parle.
Alors,
voilà.
Tout ça, on est d'accord, mais justement, c'est-à-dire qu'ici, il s'agit quand même d'essayer d'avoir une parole qui, je crois, est quand même assez libre, parce qu'on l'entend. Oui. Les solutions, on est quand même ici, quand même au Sénat, donc c'est intéressant, si vous voulez, de se dire, non mais c'est vrai que, je veux dire que dans notre grande série, il n'y a qu'à Foucon, moi je rejoins à 200%, à part qu'il y a des réalités aujourd'hui qui sont très complexes, mais qui évoluent. Moi j'aime bien aussi voir en environnement, je commençais à parler de ça il y a 30 ans, c'est au de mon amour, quand j'ai commencé, les gens ne faisaient pas la différence entre le brame du cerf et l'effet de serre, quoi. Bon, voilà. Mais c'est une réalité. Donc aujourd'hui, ça a vachement évolué. Alors, on est franchement à la croisée des chemins. On entend effectivement ce qui est possible aujourd'hui. On entend aussi l'accès au sol. On est d'accord, mais moi, on va pas partir tout de suite là-dessus entre la SAFER d'un côté, les terres de lien, etc. et tout. Bien sûr que nos jeunes, c'est 4 500 €, et ça monte aussi le coût moyen de l'hectare. Ça va être 10 000 hectares si vous êtes dans ces alliés. Ça va être moins ailleurs. Enfin, bref, vous avez cette moyenne-là. Donc, effectivement, comment ça installe nos jeunes aussi en herboristerie, on l'entend très très bien. Et voilà, mais c'est on envoie quand même, mine de rien, je veux dire qu'on envoie des pistes là, on ouvre quand même des choses. Alors c'est imparfait, oui, mais on le fait quand même. En tout cas, merci à vous, donc en espérant que vous n'aurez pas les pieds dans l'eau à Morlaix, parce que c'est une spécialité chez vous d'avoir très très souvent des inondations. Donc sous le viaduc, c'est formidable, on passe en bateau. Non, c'est une horreur quand ils sont en bas. Moi j'y vivrais pas dans votre coin parce que.
Ouais, mais une fois sur tous les 10 ans, ils sont inondés. Donc, c'est ça. Mais c'est beau. Et après, vous remontez, vous arrivez sur les monts d'Arrée. C'est absolument superbe. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est si vous avez un col. Le roc Trévesa, ils ont réussi à mettre un col à 450 mètres d'altitude, hein, Joël. T'y es arrivé. Il y a un très joli col que connaît très bien Victoire Jasmin, notre sénatrice de la Guadeloupe. C'est le seul col de Guadeloupe qui est le col des Mamelles. Voilà, hein, on est bien d'accord. Eh oui. Alors là, vous êtes sur Basse-Terre, pardon, effectivement. Donc vous avez la Soufrière, et puis entre les deux, vous avez ce col des Mamelles qui rejoint donc ce côté-là. Si vous êtes dans la partie sud, là, vous êtes dans la partie très chlordécone. Enfin, c'est pour rien, mais ça, c'est quand même ça. Et puis vous avez donc Grande-Terre, et là, vous avez une commune qui s'appelle Mornalo. Si vous ne connaissez pas Mornalo, vous allez. Ben, je sais bien. C'est pas un hasard, Victoire. Bon, vous avez un damier incroyable en noir et blanc qui est donc le cimetière de Mornalo. Et qui est tout, enfin, je veux dire, c'est une des caractéristiques qui culturellement correspond à quelque chose de fort. Ils ont quelques bio, mais très peu. Malheureusement, il y en a très peu. Une dans votre commune, parce que je l'avais interrogé. Ils font comme ils peuvent, hein. Parce que faire du bio, si vous voulez, là où vous avez du chlordécone, bonjour, c'est pas simple. Enfin bon, donc on s'y emploie. Donc merci beaucoup, Victor Jasmin, donc d'être avec nous. Ce que je vous propose. Alors maintenant, parce que là quand même, ah ouais, 16h29, on est bon. On va y arriver à 18h13. On a les formations pour les métiers d'herboriste. Je tiens à lire, là je vais vous serrer beaucoup, mais vous aurez quand même votre temps de parole. Et puis après, les retombées de l'herboristerie pour le développement des territoires. Ça aussi c'est intéressant et c'est un véritable argument. Donc on vous remercie beaucoup. Pardon encore pour les questions qui ne sont pas passées. Mais c'est pas de la censure, hein, c'est juste parce qu'il faut bien faire quelque chose. Merci à vous, donc les uns et les autres. Et puis bon, restez, vous êtes là. Thierry, tu restes, bien sûr. Sabrina Boutef-Nouchet, où êtes-vous? Pardon, Sabrina. Effectivement, vous étiez déjà installé. Bon, venez. Venez un peu vous serrer, là, parce que là, on va être loin. Ben oui, mettez-vous où vous voulez, mais resserrez-vous. Qui j'ai? Nathalie, c'est bon. Marc Robichon, où êtes-vous, Marc? Ouais, ça y est. Gilles Grillet, peut-être, je sais pas où vous êtes, Gilles. Oui, allez, hop. Bon, mettez-vous où vous voulez. Gilles. Sans je me planter tout à l'heure, c'est normal. Et on va s'intéresser de nouveau aux formations. Et alors là, Sabrina Boutef-Nouchet, donc maître de conférence en pharmacognosie à la faculté de Paris-Descartes. Vous avez connu, vous connaissez Pierre aussi tout à l'heure, Pierre Champy. Vous avez créé une... Vous arrêtez de faire de la friture? Ouais, je sais pas, c'est pas vous. Ah oui, tout s'allume d'un coup, là. Hop là. Magie, ça va être chaud bouillant, là. On va voir ce que ça donne. Vous avez créé une licence pro qui ouvrira donc à la rentrée. Alors ça va donner effectivement des métiers comme conseiller en produits de santé naturelle. Je crois qu'il faut un bac plus 2 au départ, vous allez nous dire tout ça. Donc c'est au sein de la faculté de pharmacie. Donc racontez-nous, donc présentation de cette licence de conseiller spécialisé en herboristerie et produits de santé.
Oui, donc merci, bonjour à tout le monde. Ben, merci au sénateur Labbé, effectivement, de me permettre de présenter ce projet très concret, puisque oui, effectivement, on va ouvrir à la rentrée prochaine, et de pouvoir échanger avec tout le monde. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, tous les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, je suis effectivement universitaire. J'enseigne en faculté de pharmacie la phytothérapie, l'aromathérapie, l'herboristerie, donc aux futurs pharmaciens. Et donc je vais essayer, parce que j'ai compris que c'était pas facile. Voilà. Et donc effectivement, donc on se pose la question de la formation autour de l'herboristerie. Alors formation au pluriel, puisque c'est vrai que finalement, on a vu ensemble aujourd'hui que l'herboristerie, ça a englobé beaucoup d'aspects qui vont de la production à la transformation, la distribution des produits et finalement à un conseil de vente dans le cadre de ce qu'on appelle l'herboristerie de comptoir. Donc, concernant cette nécessité de formation, est-ce qu'on englobe tout dans les formations qu'on propose? Moi, je trouve que c'est difficile d'englober tout. On a déjà vu, effectivement, donc avec Thierry Thévenin, qu'il y a la formation de concernant les paysans herboristes qui va s'axer sur la production et également la vente avec conseil associé. L'activité de transformation est également une activité importante hein, donc de l'herboristerie. Alors, ça a été un peu moins évoqué, cette activité de transformation. Et donc, bah, nous, en faculté de pharmacie à l'université, effectivement, on s'est axé sur l'activité conseil de vente, donc ce qui peut s'associer à l'herboristerie de comptoir. Donc, concernant la situation actuelle, je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été discutés en fait aujourd'hui, je promets, mais très rapidement, plein de circuits différents, la pharmacie, hors circuit pharmacie, herboristerie, boutique spécialisée, etc., des listes de plantes différentes dans tous les cas, des critères qualité différents, des prérogatives différentes avec possibilité de faire des mélanges, pas possibilité, et puis possibilité de donner du conseil thérapeutique ou non. Donc on est effectivement dans ce contexte extrêmement complexe, donc on ne va pas revenir sur tous ces points-là. Alors, qu'est-ce qu'il existe déjà à l'heure actuelle comme formation ? Donc, pour l'herboristerie, en pharmacie, on a effectivement la possibilité de distribuer de tous ces produits-là. Donc, qui est formé en pharmacie ? Le pharmacien. Donc, c'est comme ça a été déjà donc il y a beaucoup de fantasmes sur le nombre d'heures attribuées à la phytothérapie et l'herboristerie en fac de pharmacie.
Combien il y en a de pharmaciens de base?
Alors il y en a beaucoup qui sont englobés sur trois grandes périodes de formation des futurs pharmaciens. Une formation commune où on va avoir de la botanique, de la pharmacognosie, donc la fameuse chimie des substances naturelles et propriétés des plantes, organisation du vivant en général et puis tous les fondamentaux en santé. Donc, qui sont quand même assez importants, la physiologie, l'anatomie, comment fonctionne le corps humain, etc., etc., la toxicologie. Donc ça, c'est tout ce qui est fondamentaux. Une période de spécialisation ensuite, où on va aller plus en profondeur dans la thérapeutique, la pharmacie clinique, et c'est là que les pharmaciens qui ont choisi la pharmacie d'officine vont se spécialiser pour des activités comme la phytothérapie, l'aromathérapie et l'herboristerie. Donc, c'est dans les 4e, 5e, 6e année de leur cursus. Et puis, il y aura les DU, et DIU donc, qui ont fleuri à travers toute la France et qui vont permettre de spécialiser sous forme d'une année complémentaire les pharmaciens. Les quelques médecins, on en a hein, quand même, quelques médecins qui viennent se former pour effectivement donc, améliorer leurs compétences dans ce conseil-là. Donc, moi, c'était pour vous repréciser ça. À côté des pharmaciens, en pharmacie, on a des préparateurs en pharmacie. Ils ont la même chose condensée en 2 ans. Donc c'est très très dense. C'est bien entendu moins approfondi, mais effectivement c'est eux qui vont apporter le conseil quand vous allez en pharmacie pour des produits de phytothérapie, aroma et herboristerie. Alors donc ça c'est dans le circuit pharma, hein, c'est les formations qui existent. Hors circuit pharma, eh bien les écoles d'herboristes. Alors je ne vais pas empiéter sur ce que Nathalie va présenter.
On y va.
Les points positifs et négatifs. Rapidement, effectivement, donc dans les écoles d'herboristerie, déjà on a beaucoup d'écoles d'herboristerie avec des titres délivrés assez différents, phytologues, herbalistes, herboristes. Donc il y a effectivement donc quelque chose de très disparate. C'était mis en avant aussi par Aline, hein, donc qui a reprécisé ce point-là. Il y a bien entendu donc pas de référentiel de formation, mais ça c'est en train de changer. Donc ça c'est un point positif. Et sur les aspects positifs concernant ces écoles d'herboristes, c'est effectivement que c'est des écoles qui apportent une très solide formation botanique, de reconnaissance des plantes, de transmission de savoirs traditionnels et transmission de tout ce qui est relatif aux préparations traditionnelles autour des plantes et qui ont donc un fort intérêt pour la préservation de la ressource. Donc c'est vraiment au sein des écoles d'herboristes qui ressort après tous nos échanges puisqu'on se voit, on discute ensemble. Voilà, donc ça c'était les points positifs concernant ces formations. Et ensuite les très nombreuses autres formations qui existent dans le domaine des formations en ligne. Donc là je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors sur une proposition de formation, donc la fameuse licence professionnelle, donc effectivement notre réflexion nous a mené effectivement à nous positionner sur cette activité conseil-vente et on a opté pour une licence professionnelle de conseiller spécialisé en herboristerie et produits à base de plantes, donc produits de santé à base de plantes. C'est cette licence professionnelle, donc je passe, c'est détaillé un petit peu après. En fait, on la propose en niveau bac plus 3 avec un prérequis bac plus 2. Donc c'est une formation qui dure 500 heures et on va effectivement avoir besoin de recruter des gens qui ont déjà certains prérequis en fondamentaux en santé, physiologie, anatomie, biochimie, etc. Donc on va recruter des préparateurs en pharmacie, on peut recruter des préparateurs en pharmacie, des titulaires d'un PTS diététique et également tout titulaire d'un bac plus 2 scientifique qui répondra à ces prérequis, à savoir des connaissances de base en biochimie, physiologie, puisqu'on ne peut pas se permettre en un an de reprendre tous ces aspects-là. C'est la solution économique qu'on a, nous, envisagée dans un premier temps pour cette offre de formation. C'est une licence qu'on envisage en alternance. Ça nous paraît extrêmement important qu'on ait des apprenants qui soient à la fois donc, à l'université, au centre de formation des apprentis et en entreprise pour pouvoir justement développer des projets professionnels en entreprise. Alors les entreprises visées sont des herboristeries, des pharmacies, des parapharmacies, des boutiques spécialisées, grandes et moyennes surfaces ou
des bouchers en pharmacie et hors pharmacie.
Hors pharmacie, ça nous paraît extrêmement important. C'est initialement pour répondre à ce besoin de formation qu'on a envisagé la licence professionnelle, puisque les produits sont vendus dans tous ces circuits sans formation reconnue. Donc on a souhaité mettre en place cette licence pro pour répondre.
C'est venu comment? Parce que ça justement, c'était parti de ce constat, mais aussi parce que vous avez constaté qu'il y avait une demande aussi là par rapport à ça.
Il y a une demande. Nous, on enseigne dans le cadre de la formation continue aux professionnels de santé. On a énormément de demandes de non-professionnels de santé qui veulent suivre les DU. Et sans les prérequis santé que nous, on ne réaborde pas, on ne les accepte pas parce qu'ils ont beaucoup de mal à suivre nos formations. Effectivement, ça s'adresse à des professionnels de santé, préparateurs, mais également préparateurs en pharmacie, infirmiers, etc. Et donc, pour répondre à ce besoin de formation, parce que le DU, c'est 100 heures, là, la licence pro, ça sera 500 heures pour pouvoir aborder tous les éléments importants concernant les plantes. Alors, justement, je vous représente rapidement toutes les compétences qu'on veut apporter dans le cadre de cette formation.
On le voit assez vite. Pardonnez-moi. Donc on a bien compris quels étaient les débouchés. Maintenant, la première promotion, donc ça va être au mois de septembre 2019.
Janvier
2020. Il y en a combien d'inscrits ou de préinscrits déjà?
Alors on part sur un minimum de 20 pour démarrer cette année. On ne sait pas encore donc combien on va avoir en nombre maximal. Mais effectivement, pour l'instant, on part sur 20, une vingtaine d'étudiants pour la première année. C'est le minimum en fait pour ouvrir la formation. Alors si on a un rush avec 200 étudiants qui veulent s'inscrire, il va falloir qu'on gère. Effectivement, donc on part sur cette base-là. Et donc il faut que ces personnes puissent effectivement signer un contrat d'alternance avec une entreprise. Donc là, on a des professionnels qui sont engagés à recruter. Dans le secteur pharma.
Bon, et vous ne savez pas si d'autres facultés, c'est encore trop tôt pour savoir, d'autres facultés de pharmacie sont intéressées.
Alors cette réflexion, on l'a menée avec plusieurs universitaires sur tout le territoire et le souhait, c'est effectivement de la dupliquer et donc de la proposer à nos collègues et qui sont très intéressés pour pouvoir la proposer sur toute la France et donc on verra ensuite pour l'outre-mer s'il y a des possibilités.
Si vous êtes contagieux, oui, tout à fait.
Non,
et ce serait assez formidable, surtout quand on voit la richesse, on l'a déjà dit tout à l'heure, Victor Jasmin, donc la force évidemment de la biodiversité que vous avez en outre-mer, on le sait, enfin, vraiment c'est énorme. Guadeloupe évidemment dedans, mais
alors moi je voudrais juste rajouter donc les différents points, parce que cette formation on la propose dans un cadre où il y a beaucoup de verrous réglementaires à faire sauter. Donc les verrous réglementaires, on l'a vu, c'est effectivement l'élargissement de la liste de plantes des 148, l'autorisation des allégations traditionnelles qui vont permettre effectivement de donner du conseil associé, parce que nous on va former
déconseiller.
Ah bah oui.
Il va falloir bien leur expliquer dans ce qu'ils vont pouvoir dire dans un circuit et pas dans l'autre. Et on aimerait qu'ils aient un discours homogène. Et donc, c'est vraiment un point extrêmement important. La partie qualité aussi des plantes, on souhaite qu'il y ait effectivement un allègement des critères qualité exigés pour les plantes d'herboristerie qui va permettre effectivement aussi d'améliorer les choses.
Merci à vous Sabrina. Thierry Thévenin, vous remplacez Éric Richard pour le Centre de formation professionnelle de promotion agricole à Nyons. Quelques mots sur cette formation s'il vous plaît. C'est Lucard, ça s'appelle Lucard. Hein, non, ça ne marche pas du tout. Alors prenez ça, hop là. En même temps, on va tout démantibuler. Je pourrais retenter. Donc, sur celui-là, ça va aller.
Celui-là, il marche.
Ouais. Ouais, allez.
Voilà, donc je remplace effectivement Éric Richard, qui n'a pas pu venir. Et
celui-là, il ne marche pas. Non, mais... Vas-y. Pas d'angoisse. Tout va bien, Peggy.
Non, j'ai... Je crois que ça, c'était pas mal.
C'était bien.
Comment
allez. Roule là-dessus.
Voilà, donc je remplace Éric Richard qui malheureusement a pas pu venir. Donc il m'a demandé de le remplacer. En fait, ce centre de formation est le centre de formation un peu historique en France qui a fait de l'enseignement agricole autour des plantes médicinales. Donc la première promotion a été donnée en 1983. Donc ça remonte un petit peu. Et moi-même j'ai été stagiaire là-bas, j'ai été formé là-bas en 1989.
Ah ben voilà, tout le monde a débranché tout, donc vous avez raison. Recadrez les choses, monsieur, vous avez raison.
J'ai réparé sans m'en rendre compte. Bon. On a des talents cachés.
La position des mains, ça marche bien avec vous, Thierry. Continuez.
Donc voilà, oui, ce que je voulais dire, donc ce c'est pas facile du coup. Ce CFPA délivre donc cette formation. Moi-même, je l'ai fait en 1989 et il s'est trouvé qu'assez rapidement, on m'avait proposé d'intervenir pour apporter un témoignage. Donc je suis intervenant là-bas aussi et donc formateur occasionnel depuis 1994. Donc ça fait un petit moment et c'est vrai que ça fait quelques années de recul et je me suis rendu compte que le profil des gens qui vont dans les CFPA, dans les formations agricoles, a vraiment évolué beaucoup au cours de ces années-là. Et quand j'ai commencé, on était deux en fait sur une promotion de 15 étudiants à vouloir faire de la vente directe, à faire le métier qu'on appelle aujourd'hui paysan herboriste, qui s'appelait pas encore comme ça. Et c'était essentiellement soit des enfants de l'avendiculteur, parce qu'on est dans la région de Nyons, donc on n'était pas loin du plateau de Valensole. Le profil, ou alors des viticulteurs ou des arboriculteurs qui souhaitaient faire de la diversification et qui pouvaient plutôt vendre leurs plantes en circuit long et chercher plutôt des débouchés auprès, je sais pas moi, de Boiron, de Fabre ou de la coopérative de Diwa, enfin voilà, plutôt du circuit long. Ça a complètement changé. Ça fait déjà, il y a un phénomène qui est un peu exponentiel. Alors, Nyons s'est toujours adressé un peu au national, puisque ça a été longtemps la seule formation. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Il y a le CFPA de Montmoreau dans le Jura. Il y a CFPA de Marmilla dans le Puy-de-Dôme. Il y a de plus en plus d'ailleurs de CFPA qui ouvrent des formations, soit des UCAR, soit des BPREA, soit des CS, des certificats de spécialisation. Mais Nyons donc a toujours accueilli des gens d'un peu toute la France. Et c'est vrai que ça fait une dizaine d'années où en fait maintenant, je peux dire au moins 5 ans en tout cas, où 100% des profils, c'est des gens qui veulent faire de la vente directe. C'est-à-dire ils veulent aller vraiment de la plante, de la cueillette, de leur jardin ou de leur champ, jusqu'à l'atelier de transformation, ce que nous a expliqué Audrey ce matin, et jusqu'à la vente et au conseil au public.
Alors, j'ai cette formation de paysan herboriste. Qu'est-ce que j'apporte de plus par rapport à la demande de mon client?
Alors, justement, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, la formation telle qu'elle est conçue et pensée en agriculture s'arrête à la production. L'agriculture, je pense qu'on est dans l'héritage de l'après-guerre et du plan Marshall, où le producteur, c'est un producteur de matières premières, qui après sera prise par des négociants ou des transformateurs, mais il n'y a pas dans l'enseignement agricole aujourd'hui autour des plantes médicinales quelque chose qui est vraiment prévu pour la vente au public et le conseil au public. Et on l'a dit et répété aujourd'hui, de toute façon on ne peut pas faire autrement. Quand bien même on voudrait faire autrement, on ne peut pas. Donc il y a vraiment un manque, il y a un vide. En ce moment, il y a l'enseignement agricole est en réforme, donc j'ai accueilli par exemple chez moi, comme d'autres producteurs, un monsieur qui a été chargé de mission pour le ministère de l'Agriculture pour la réforme du CS, Dominique Baudry. Donc il est passé, nous a enquêté, et nous a dit, ben aujourd'hui, le CS par exemple, c'est pas le bon outil, parce que c'est coincé, on est toujours sur l'idée que c'est une formation technique, où on apprend les gens à produire, à faire de la transformation primaire, mais on va pas au-delà. Donc, comment réagir à cette situation-là. Donc, avec le CFPP à Nyons, qui avait une ancienneté sur le sujet, on a décidé, il y a eu une première session qui s'est déroulée ce printemps, qui était un peu un ballon d'essai. On a fait une petite formation. Alors, c'est pas satisfaisant en termes de temps, mais c'était une manière aussi de lancer, d'amorcer quelque chose, de lancer la toupie. On a fait une UCAR qui s'appelle « Transmettre les savoirs traditionnels ». Et dans cette UCAR, on a voulu compléter, parce qu'aujourd'hui, dans la formation agricole, les gens, on leur apprend à reconnaître les plantes. Il y a des cours de botanique, on leur apprend à les produire, à les sécher, à les distiller, on leur apprend tout ça. Là, on a voulu mettre ce qu'il y a en aval. Donc, on a fait venir des herboristes, on a fait venir des pharmaciens. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on a fait venir ces gens-là. Et donc là, l'idée, c'est donc il y a mon voisin qui est à côté de moi, je pense qu'il peut prendre la parole, c'est de, avec deux CFPPA et donc la filière des paysans herboristes, c'est de proposer dès l'année prochaine, on espère pouvoir y arriver, dès janvier ou février 2020, une formation plus complète qui soit pas juste deux semaines, mais qui réponde à ce métier, à savoir, donc je me répète, d'aller de la plante jusqu'au conseil au public et pouvoir informer le client sur les usages traditionnels.
Le message est bien passé. Gilles Grillet, directeur du centre de formation agricole de Hyères. Donc là, nous sommes dans le département du Var. Vous avez en face d'ailleurs aussi le merveilleux conservatoire botanique de Porquerolles. Mmh. Et aussi, c'est ça.
Oui, c'est vrai.
Et puis vous allez aussi Porquerolles. Enfin là, c'est plutôt pour le Mérou, quoi. C'est plutôt plus intéressant pour ça. Alors donc, effectivement, que souhaitez-vous faire?
Non, mais comme l'a dit justement Thierry, il a très bien résumé. Effectivement, nous, avec notre outillage que l'on a pour l'instant au ministère de l'Agriculture, on s'arrêtait à la transformation et c'est vrai que c'était pas satisfaisant. Donc, effectivement, on va essayer, dès le printemps prochain, de monter cette formation que je pourrais appeler un peu complémentaire ou supplémentaire ou complétant déjà une formation un peu plus traditionnelle sur aller de la production jusqu'au conseil, donc avec la vente directe et les témoignages de ce matin et même de cet après-midi pour vous madame, c'est exactement la demande. Et pour répondre aussi à une personne qui a dit mais est-ce qu'on peut produire est-ce qu'il faut produire en agriculture bio? Nous, dans les formations, tous ceux qui viennent s'installer veulent produire en agriculture bio. J'en ai en maraîchage, j'en ai en apiculture, ils viennent tous avec, et donc on a donné une réponse sur des formations en agriculture bio. Et c'est à presque une aberration de parler de plantes et de ne pas penser nature. Donc forcément, ces formations et notamment tous ces cursus que l'on aura, ils seront en agriculture bio. Enfin, ça ne peut pas en être autrement. Sinon, on va ouvrir le champ à la chimie, etc. Et non, ce serait un contresens complet sur notre fond, en fait, de cohérence que l'on a, nos fondamentaux, comme on dit. Donc, effectivement, et l'idée de la formation que l'on veut mener avec Nyons et Thierry, c'est de faire produire une formation un peu tournante, c'est-à-dire qu'on a des territoires formidables. Nous, déjà dans le sud-est, on a une richesse floristique, notamment on a pratiquement les trois quarts de la flore nationale, continentale, dans le sud-est de la France. Donc on peut déjà proposer déjà une connaissance et des apports techniques importants, et puis aller sur d'autres territoires de notre France, la Creuse, le Limousin, etc. Et donc avoir ces étudiants ou ces stagiaires, peu importe le terme, qui pourraient tourner pour compléter et pour parfaire leurs connaissances sur le territoire et donc sur le conseil et leur capacité à conseiller surtout. Donc l'idée de monter quelque chose est... Avec le ministère de l'Agriculture, on peut avoir des outils, parce qu'il y a des outils de référentiel qui peuvent se compléter, se monter, proposer. Il y a des commissions des titres, hein, et on sait très bien, on sait à peu près faire. Il faut simplement que la profession, les professionnels puissent aussi soutenir ce dossier. Mais on sait très bien déposer des titres, etc., pour essayer d'apporter ce complément nécessaire pour assurer ce cursus. Alors juste un petit mot, on l'a fait pour le diplôme de naturopathie, puisque nous avons un titre reconnu d'État de formation en naturopathe au CFPP de Hyères. Donc on sait à peu près faire ça, et on va le faire avec Nyons, parce qu'ils ont aussi cette compétence de technique et de pédagogie associée.
Merci à vous, Gilles Grillet. Nathalie Avon, donc là, casquette aussi toujours de présidente de la Fédération française des écoles d'herboristerie. Voilà. Donc on poursuit peut-être le sujet de tout à l'heure.
Oui, je vais peut-être en profiter justement. J'avais préparé un discours avec des petits 1, des petits A, des petits B. Mais j'ai surtout envie de répondre à cette dame, j'ai oublié votre nom, on ne trouve pas notre place. Effectivement, où sont, quelle est la place donnée aux herboristes, allez, pourquoi pas thérapeutes, puisqu'on dit bien paysan herboriste, pourquoi pas dire herboriste-thérapeute, finalement. Moi, c'est exactement ce qui m'avait poussé à aller dans une école d'herboristerie en 2008. Reconversion professionnelle, la crise de la quarantaine, bref, beaucoup de personnes ont connu ça. Et aujourd'hui, on est en train de parler essentiellement, enfin en tout cas beaucoup, soit de législation qui sont pour moi un véritable carcan, soit au contraire de complexité dans les toxicologies de la plante. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre ça de côté. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que si la connaissance de l'herboristerie continue d'exister, c'est parce qu'elle a été portée par des écoles qui existent pour certaines depuis 40 ans et qui ont été initiées par des hommes et des femmes passionnés, au départ soit botanistes et ethnobotanistes, soit pour certains d'ailleurs pharmaciens. Et la conjugaison de ces deux racines ont permis de construire des savoirs et ont permis surtout de continuer la transmission des savoirs autour des plantes médicinales qui étaient à l'époque, il faut bien le dire, enfin j'étais beaucoup trop jeune, mais en tout cas je porte une école qui a 40 ans, je suis co-directrice d'une école qui a 40 ans, elle fait partie des pionnières et c'est bien grâce à ces gens-là que la plante médicinale a continué d'exister. Il y a d'ailleurs à cette table, Thierry, bah, tu t'es formé à l'une de ces écoles. Il y a des pharmaciens qui viennent dans nos écoles, il y a des infirmières, il y a même des médecins qui viennent se former pour connaître les propriétés des plantes médicinales et pour pouvoir les intégrer dans leur protocole de soins. Nos écoles proposent un savoir construit autour de la plante, autour de l'anatomie-physiologie. Nous proposons des formations qui durent en moyenne 3 ans, parce que 3 ans pour nous, c'est une durée, à mon sens, enfin, je parle au nom de la fédération bien sûr, incompressible, pour pouvoir intégrer et s'approprier tous les savoirs qui sont proposés et les mettre en pratique. C'est comme quand on décide d'apprendre à jouer du violon. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de musique. Vous allez apprendre le solfège, vous allez apprendre la musique, vous allez jouer, mais pour devenir un tant soit peu virtuose, ou en tout cas à l'aise et avec une certaine sensibilité, mais il va falloir du temps. Nos écoles proposent donc des enseignements de qualité. Elles font appel à des équipes pédagogiques qui font appel à des experts, qui font appel à des scientifiques, qui sont construits donc sur des programmes qui existent déjà. Alors c'est vrai, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment travaillé autour d'un référentiel de formation, mais notre travail aujourd'hui, c'est de travailler sur un référentiel métier. Une réflexion qu'on a ouverte d'ailleurs à l'ensemble des acteurs de l'herboristerie, parce qu'il n'est pas question de continuer à jouer tout seul dans notre cours. Pourquoi on n'en parle plus des herboristes? Parce qu'on n'avait plus le droit d'en parler. Donc les écoles, elles faisaient leur petite formation dans leur coin, tout allait bien. Aujourd'hui, on est au grand jour, et pour continuer d'exister, dans la légalité, alors qu'on est borderline, puisque le terme a été utilisé depuis de nombreuses années, on a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin des législateurs, on a besoin des professionnels de santé pour nous permettre de continuer à promouvoir cette connaissance et surtout la transmettre avec toute la passion par laquelle elle est portée au travers de ces écoles. Dans nos écoles, on a des personnes qui viennent du milieu de la santé, je l'ai évoqué déjà, mais aussi du milieu agricole, et puis il y a des projets de reconversion. Tout ça, c'est comme un îlot de savoir qui va maturer pendant 3 ans, ça va favoriser donc des échanges, des liens, des réseaux assez improbables au départ, mais en tout cas qui vont rendre service à la plante et qui vont la porter dans toute la dimension qu'elle mérite, et surtout elle va retisser le lien à mon sens indispensable entre l'homme et la plante, l'homme et le végétal, nous remettre à notre véritable place. Voilà, pour moi, c'est ça.
Merci à vous. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous répondez à l'île Mirka qui ne pratique pas la langue de bois, ce qui est très pratique en cas d'inondation, parce qu'au moins elle flotte. Non, je dis ça parce que les problèmes de demain, c'est la flotte, hein, c'est l'eau. Hein, donc ça va être le trop et le pas assez. Ça va monter dans les médias, les petits copains commencent à se réveiller sur le sujet, mais ça va être ça. Réchauffement climatique, ça va être la gestion de l'eau, le partage de l'eau. On va tous être impactés, je vous dis, avec le trop et le pas assez. Quand donc Aline dit qu'elle constate qu'il y a quand même des compétences qui sont disparates.
J'ai pas compris.
Elle parlait de compétences qui pouvaient être disparates.
Effectivement, les écoles, pour certaines, existent depuis 40 ans. On a créé cette fédération en 2014, donc nous avons 5 ans d'existence. Émerge un tronc commun évident. Pour autant, effectivement, il est nécessaire, à mon sens, de réfléchir. Ah oui, c'est vrai. Merci, Marc. L'idée de départ, le vœu pieux pour cette fédération, c'était justement de réfléchir à ce tronc commun et de réfléchir à ce référentiel métier, de manière à porter la reconnaissance du diplôme d'herboriste et cette reconnaissance d'un point de vue légal. Alors c'est vrai que c'est disparate, parce que les connaissances qui sont transmises dans ces écoles sont transmises par des femmes et par des hommes, donc ils ne disent pas forcément la même chose, et effectivement, il est possible que deux heures après, dans un cours, un intervenant va peut-être pas forcément contredire son prédécesseur, mais en tout cas, pas dire exactement la même chose. Et c'est normal, parce que en plus, ce sont pour certains des thérapeutes, des médecins qui interviennent dans nos écoles, qui ont donc une expérience, un recul, et qui ont une expérience de la plante qui est forcément différente d'un thérapeute à l'autre. Donc par contre, il me semble indispensable de réfléchir à des prérequis, de réfléchir aux objectifs à atteindre, de manière à justement faire en sorte que cette formation, que nous formations, forme des herboristes reconnus de tout un chacun. Et bon, bah, parfois, il faut rentrer dans des boîtes. D'ailleurs, on s'est appuyé sur Marc.
Sur Marc Robichon, donc consultant expert en formation. Et vous avez été embauché pour justement la création d'un référentiel métier. Allez, on vous écoute. Non, pas seulement. Enfin, bon. On va pointer là-dessus quand même.
Merci de me donner la parole. Nathalie disait, en introduction, quand on a lancé le groupe de travail en février de cette année, elle avouait que pour elle, parler le langage de l'ingénierie, de formation, de certification, c'était un peu comme mâcher du carton. Alors, je comprends que pour bon nombre d'entre vous, avec tout ce millefeuille qu'on évoque depuis ce matin de règlements ambigus, parfois contradictoires, rajouter encore une couche sur le millefeuille, une couche donc de certification, c'est pas forcément le glaçage du millefeuille. Voilà. Donc, je vais quand même essayer de. Bon, j'arrête avec la métaphore culinaire, mais. Je vais essayer quand même de vous donner un point de vue sur ce projet de référentiel métier de certification et sur le projet qui est actuellement donc engagé. Alors, je rappelle simplement que dans les statuts de la fédération, qui ont été donc déposés en 2015, figuraient en toutes lettres donc l'élaboration d'un tronc commun de compétences. Alors, je rectifie d'ailleurs une petite chose qu'a dit Sabrina tout à l'heure à ce sujet. C'est pas un programme commun de formation, mais c'est vraiment un tronc commun de compétences et un référentiel métier, l'objectif de ce projet. J'y reviendrai après. Et également était inscrit dans ces statuts l'élaboration d'un tronc commun, oui, et en vue du rétablissement d'un diplôme d'herboriste en France. Voilà, c'était ce qui était exactement écrit dans les statuts. Alors, ce projet a mis un petit peu de temps à démarrer, mais il s'est finalement lancé officiellement en janvier de cette année, en janvier 2019. Donc, l'idée, in fine, c'est d'arriver à la création d'une certification d'herboriste qui soit commune, effectivement, aux 5 écoles de la fédération et reconnue sur le plan national. Alors, je vais tout de suite faire la distinction, parce que mon expérience depuis le début de ce projet m'a montré que la confusion est très très fréquente entre la reconnaissance d'une certification et la reconnaissance d'une profession, ou la création d'une profession réglementée, pour être plus précis. Donc, je me suis rendu compte qu'y compris dans les acteurs du domaine, la confusion était très fréquente. Alors, je vais m'empresser de clarifier cette chose. Ça n'est pas la même chose. Voilà. Donc, créer une certification et la faire enregistrer au répertoire national des certifications professionnelles, c'est faire ce qui a été fait à peu près déjà 10 000 fois, puisqu'il y a à peu près 10 000 certifications professionnelles qui sont enregistrées dans ce répertoire national. Par contre, si on compte le nombre de professions réglementées en France, hein, dont par exemple les boulangers font partie, il en existe 240. Voilà. Donc vous voyez, 240 d'un côté, 10 000 de l'autre, toute certification ne conduit pas à la réglementation d'une profession. Par contre, réciproquement, généralement, quand on crée une profession réglementée, ça passe presque toujours par la standardisation d'une qualification, et donc la création et la reconnaissance d'une certification associée. Oui. Donc, je le dis tout de suite, et y compris pour le public des écoles, parce qu'il s'agit aussi de ne pas créer de faux espoirs. C'est-à-dire, le projet, c'est clairement, donc le projet engagé par la fédération, c'est la création d'une certification enregistrée au répertoire national. La question de l'évolution réglementaire, éventuellement d'une profession réglementée, c'est le projet de Joël Labbé, c'est le projet sénatorial, et on est dans deux champs totalement, dans deux domaines totalement différents. Alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas corrélés, bien entendu, mais encore une fois, il faut absolument éviter de confondre l'un et l'autre. Alors, le projet donc, comprend deux grandes étapes, et c'est un grand classique quand on a l'habitude de travailler en ingénierie de certification. On ne crée pas de but en blanc, ou on ne fait pas évoluer, d'ailleurs aussi de but en blanc, une certification, un diplôme professionnel. Alors, c'est comme ça pour le ministère de l'Éducation avec les diplômes professionnels, c'est comme ça pour les titres professionnels également du ministère chargé de l'Emploi. On passe toujours par ce qu'on appelle une étude, une note ou un dossier d'opportunité. Donc, nous sommes en voie d'achever au premier semestre cette étude d'opportunité. Et c'est sur les conclusions de cette étude que la fédération fondera sa décision d'aller vers la création d'une certification reconnue, donc, ou de ne pas y aller. Parce que il y a toute une série d'aspects à prendre en compte. Et par exemple, ce sont les impacts prévisibles sur le recrutement et l'insertion professionnelle des étudiants. Ce sont toujours des questions à se poser. Également les impacts sur les programmes et les contenus de formation. À partir du moment où on standardise une certification, eh bien, ça va avoir des répercussions sur les programmes, qu'il va falloir effectivement plus homogénéiser, plus unifier. Alors là, on peut revenir à l'idée peut-être de programmes de formation qui soient plus communs à l'ensemble des écoles, mais également tout ce qui va concerner les épreuves d'évaluation, les jurys qui vont délivrer la certification. Voilà, il y a toute une cuisine qui est propre à la certification et dont il faut évaluer les impacts. Et il y a un dernier type d'impact qui m'a paru important aussi d'analyser. Ce sont les interactions potentielles avec les autres projets de certification. Et par exemple, la licence professionnelle dont vient de nous parler Sabrina. Alors, on peut voir que probablement, il peut très bien y avoir un partage entre plus ce qui relèverait de la formation initiale et ce qui relèverait plus de la formation professionnelle et continue. Il y a d'autres petites différences entre les deux projets. On a parlé de durée tout à l'heure de formation. Hier, je rendais visite à l'association pour le renouveau de l'herboristerie, donc dans l'Ardèche. Je leur ai demandé quelle était la durée estimée de leur programme de formation qui est condensé sur 2 ans. Et l'estimation, c'était de l'ordre, tout compris, de 1800 heures. Vous voyez qu'on est sur des durées qui sont quand même assez conséquentes, et sur 3 ans, on aura des durées comparables. Alors, on pilote actuellement, dans le cadre de l'étude d'opportunité, donc la création d'un référentiel métier, et on tient compte tout de suite de 2 scénarios. C'est-à-dire qu'on a un premier scénario qui est le respect strict du cadre réglementaire actuel, et puis on anticipe aussi une éventuelle évolution du cadre réglementaire. Donc on fait un référentiel métier qui est assez large, vous l'avez déjà ici, donc avec le premier bloc de compétences. Vous en avez le résumé sur l'écran. Il y a deux blocs de compétences, donc un bloc conseil et accompagnement et un bloc commercialisation et vente. Alors, pour créer ce référentiel métier, on a panaché deux méthodes qu'on utilise classiquement en analyse du travail. On a utilisé la technique du groupe métier, donc c'est le groupe de travail qui a commencé ses travaux donc en février de cette année.
Ça vous nous le faites vite. Ça vous nous le faites vite. Ça,
hein?
Ça vous nous le faites vite parce que là.
Oh oui, je fais vite. Ouais. D'accord, voilà.
On a fait appel. On vous croit
sur
la méthode. La méthode, vous nous la passez. Mais...
Du domaine, voilà. Voilà. Et validation finale le 6 juin à l'école des plantes de Paris. Donc voilà. Vous avez le résumé voilà, sur l'écran avec donc, le bloc de compétences 1. Ça serait peut-être bien qu'on voit le bloc numéro 2 donc, qui est commercialisation et vente. Il faudrait passer le transparent suivant. Et donc ici, vous n'avez qu'un résumé. Pour vous donner une idée, chaque ligne en vert épinard... ou feuilles de bourrache. Donc, chaque ligne, ça correspond à peu près à une page de descripteur pour chaque compétence. Et la deuxième étape, eh bien, elle est conditionnée par la décision que la fédération va prendre le 19 juin. Et en cas de décision positive, nous passerons à la deuxième phase du projet, au second semestre, qui sera la constitution du dossier complet de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, exactement comme ça a été fait par le CFPPA de Nyons pour le naturopathe. Hein, ça sera exactement la même filière. Voilà.
De hier. Oui.
Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.
Ben, merci beaucoup, Marc Robichon. Merci à vous.